va commencer.
Bien. Bien, je crois qu'on reprend. Et donc, on passe à la médecine médiévale avec Joël Chandelier, dont vous avez compris ce matin qu'on attend avec grande impatience son livre sur Avicenne. Enfin, c'était, vu le ton sur lequel il a dit ça, Nicolas, je crois que là, il va falloir que tu fasses quelque chose assez vite. Hein, parce que c'était... Oui, j'en ai eu l'impression que... Bon. Voilà, donc, c'est bien sur Avicenne, d'ailleurs.
Sur Avicenne, oui,
bon, ça. Très bien. Donc, Joël est maître, je l'ai dit, maître de conférence à Paris 8, non, je sais plus. Enfin, bref. Et en tout cas, travaille sur la médecine arabe et latine au Moyen-Âge. Voilà.
Merci beaucoup à toi, Sabine et Anne, pour l'organisation et l'invitation. Je suis très content de revenir ici parler. Alors, je vais donc parler des médecins d'expérience. Je commence par une citation très célèbre que je vais lire en latin pour le plaisir, enfin, mon plaisir, peut-être pas le vôtre, et que je traduirai ensuite. Enfin, je ne traduirai pas, c'est la traduction de Littré, donc la traduction classique. Donc, vous avez. Alors, j'ai distribué le papier, mais je l'ai mis comme ça, vous le pouvez lire aussi derrière moi. Vita brevis, ars longa, tempus autem acutum, experimentum phalax, judicium difficile. Oportet autem, non solum se ipsum prebere facientem, quae oportet. Cet etiam egrotantem et presentes et ea quae extring secundus sunt. Donc la traduction, qui n'est pas exactement la traduction du texte latin que je viens de vous lire, parce que c'est la traduction faite d'après le grec par Littré. La vie est courte, l'art est long, l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse, le jugement difficile. Il faut non seulement faire soi-même ce qui convient, mais encore faire que le malade, les assistants et les choses extérieures y concourent. Ce texte est extrêmement célèbre pour de très nombreuses raisons. L'une d'entre elles est évidemment son contenu, mais aussi le lieu où il se place, puisque c'est le premier des aphorismes d'Hippocrate, l'œuvre peut-être la plus connue, en tout cas une des plus connues d'Hippocrate, donc ce médecin du 5e siècle, ce groupe de médecins, puisque certaines œuvres sont d'Hippocrate, d'autres peut-être de son entourage, donc du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et comme c'est le premier aphorisme et qui résume un peu... ce qu'est la médecine, il a été extrêmement commenté au Moyen-Âge par pratiquement toutes les civilisations, que ce soit la civilisation grecque, arabe, latine et jusqu'à nos jours. Cet aphorisme m'intéresse aujourd'hui car l'un de ses éléments, surtout dans la première phrase, concerne la question de l'expérience qui va m'intéresser aujourd'hui. Puisque bon, la vie est courte, l'art est long, l'occasion fugitive sont trois points intéressants, mais le quatrième, l'expérience est trompeuse, et la traduction latine, experimentum phalax, donc vraiment trompeur, en sachant qu'on trouve une autre traduction latine, et je vais y venir tout de suite, qui est timorosum, ce qui veut dire dangereuse plutôt, délicate, oui, enfin, qui fait peur, disons. Cet aphorisme a amené les commentateurs de toutes les époques à s'interroger sur le statut de l'expérience dans le cadre de la médecine. Et pour vous en donner un seul exemple, mais il y en aurait vraiment des dizaines, des centaines à montrer, je cite un commentaire connu parce que c'est un des rares commentaires médiévaux en français aux aphorismes d'Hippocrate, le commentaire de Martin de Saint-Gilles, donc un universitaire parisien du XIVe siècle, mort en 1363. C'est le texte 2, et je vais là aussi lire son commentaire comme introduction, car il pointe les deux aspects de la question d'expérience dans le cadre de la médecine. C'est forte chose de savoir la raison et le jugement des choses de médecine où il a si grande diversité que s'émerveille. Et ainsi, l'expériment est faillable et pas houreux, donc ce sont les deux termes, hein, phalax timorosum, pour la noblesse du corps humain en quoi il est fait, car le médecin ne œuvre pas en pierre, en fût, en cuir, en telle chose, mais au corps humain. Si comme dit Galien au premier comment, puisque Galien a commenté lui-même les aphorismes d'Hippocrate, et celui-là en particulier. Secondement, donc premier aspect que je viens d'énumérer. Deuxième aspect, secondement, l'expériment est décevable et pas houreux pour plusieurs conditions qu'il convient savoir et garder. Soit vrai que si, comme Galien le dit au premier livre des simples médecines et au troisième livre des complexions, lesquels racontent Jean de Saint-Amand, donc un autre professeur parisien de la fin du XIIIe siècle, ou chapitre des médecines approuvées par vraie expérience en l'Antidotaire de Nicolas. Alors que dit Martin de Saint-Gilles? Il met en avant deux interprétations possibles de ce bout de phrase experimentum phalax. Premier, c'est dangereux pour le corps humain. car le médecin, évidemment on parle de la médecine humaine, œuvre sur des corps humains, et donc, comme il le dit, la noblesse de l'objet, hein, le corps humain, fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire des expériences sur le corps humain, car l'homme doit être respecté pour une raison éthique évidente. Là, on met en avant l'aspect expérimental, c'est-à-dire vraiment les expérimentations faites en médecine. On ne peut pas faire d'expérimentation sur l'homme, du moins pour cet auteur. Et c'est évidemment un dogme éthique toujours valable en médecine, même si il y a eu des volontés parfois de s'en échapper. Deuxième aspect, l'aspect trompeur, sur le fait que l'expérience, donc ce n'est plus l'expérimentation, mais l'expérience, là, plutôt, doit être interprétée et faite dans des conditions précises pour être valable. Et que si on n'encadre pas l'expérience de manière rigoureuse, eh bien, on risque de se tromper. Donc ce sont les conditions qu'il convient garder, hein, dans le texte de Martin de Saint-Gilles. Et donc ce petit commentaire nous montre déjà l'ambiguïté du terme d'expérience, qui recouvre à la fois l'expérimentation, c'est-à-dire vraiment une expérience menée dans un cadre précis, méthodologique, avec des conditions bien déterminées au départ, dans le but de démontrer ou de confirmer une thèse, une hypothèse, et l'expérience, qui a un sens plus large, qui peut être l'expérience courante que peut avoir un médecin à force de pratiquer. Hein, il a vu de nombreux cas, et donc il a une grande expérience. Cette confusion entre les deux termes, et en latin, les deux termes experientia et experimentum existent, mais en fait sont employés sans rigueur terminologique. Cette confusion existe en fait dès la définition que donne de l'expérience Aristote dans la métaphysique. C'est le troisième texte que j'ai mis, que je vais lire aussi rapidement. Je ne lirai pas nécessairement tous les textes, hein, mais j'ai systématiquement mis le texte, enfin systématiquement non, mais le plus souvent mis le texte en langue originale et la traduction, surtout quand c'était des traductions qui étaient les miennes, pour que vous puissiez me critiquer si vous trouvez que je me suis trompé. Donc voilà ce que dit Aristote. C'est de la mémoire, alors hop, j'avance, voilà. C'est de la mémoire que provient l'expérience pour les hommes. En effet, une multiplicité de souvenirs de la même chose en arrive à constituer finalement une seule expérience. Là, il n'y a pas question de conditions d'expérimentation. Il semble que, d'une manière presque naturelle, la multiplicité d'expériences d'une même chose fait qu'on en arrive à une connaissance par le simple fait de la mémoire. Et après un petit court passage que je passe, Aristote donne un exemple, et précisément il donne l'exemple de la médecine. L'art naît lorsque, d'une multitude de notions expérimentales, se dégage un seul jugement universel, applicable à tous les cas semblables. En effet, former le jugement que tel remède a soulagé Callias, atteint de telle maladie, puis Socrate, puis plusieurs autres pris individuellement, c'est le fait de l'expérience. Mais juger que tel remède a soulagé tous les individus de telle constitution, rentrant dans les limites d'une classe déterminée, atteint de telle maladie, comme par exemple les phlegmatiques, les bilieux ou les fiévreux, cela relève de l'art. Donc, l'observation de divers soins identiques, ou en tout cas similaires, semblables, amène à une connaissance générale, abstraite, et c'est le fondement de la médecine. Là aussi, donc, il y a cette confusion, puisque l'expérience du succès d'une substance sur plusieurs hommes forme un jugement général sur son action, sans qu'il n'y ait un encadrement, au moins dans ce texte-là, ou une expérimentation voulue, c'est-à-dire un processus bien coordonné, mené par un savant dans un but très précis. Et il semble donc que ce soit simplement l'expérience accumulée, qui, de manière presque naturelle et automatique, produit la connaissance, et il n'est pas question d'action volontaire du savant. Ces textes m'introduisent donc aux deux enjeux de cette question de l'expérience en médecine, enjeux qui sont évidemment toujours d'actualité. Un enjeu d'abord théorique. Comment donner un fondement scientifique, ou du moins le plus proche de ce qu'est la science, à la médecine? Puisque la médecine, par définition, s'intéresse à des cas particuliers, à des malades qu'elle soigne. Et chaque malade est différent, à un âge différent, des habitudes de vie différentes, une histoire personnelle différente. Ce qui fait que chaque cas, pour le médecin, fondamentalement, est différent. Mais si on veut déterminer des règles, eh bien, il faut en tirer des canons scientifiques, des règles scientifiques. Le deuxième enjeu est un enjeu plus social. Les médecins, au Moyen-Âge, comme plus tard, ont la volonté de faire de leur discipline une véritable science, un art noble, digne d'enseignement, capable d'être transmis indépendamment de l'expérience pratique que l'on peut avoir par l'exercice de la profession, et égal d'autres disciplines scientifiques qui, elles, ont un statut plus simple, comme les mathématiques, par exemple. Donc la question que je vais me poser aujourd'hui est de savoir comment les médecins du Moyen-Âge résolvent ces deux problèmes, comment réussissent-ils à proposer une solution pour expliquer comment, à partir d'expériences courantes, on peut arriver à une connaissance. Et est-ce que cette connaissance est certaine ou pas? Est-ce qu'on peut vraiment connaître réellement les choses en médecine, ou est-ce que finalement l'ensemble des particularités, des cas particuliers qui existent, sont irréductibles à des règles générales? Et ce débat existait déjà dans l'Antiquité, il y avait des écoles qui justement refusaient absolument l'idée d'une systématisation et d'une scientifisation de la médecine. Alors, pour ça, donc, je verrai d'abord comment ils encadrent la connaissance expérimentale, ensuite la question de la certitude en médecine, et enfin les possibilités ouvertes par les réflexions théoriques que je vais exposer. Et je me concentrerai surtout, comme tous les orateurs de cette journée, sur la fin du Moyen-Âge, car c'est la période où la science grecque et arabe a été intégrée dans le monde latin, et donc les questions de transmission sont en partie, disons, derrière les auteurs, et donc je vais surtout m'intéresser au XIIIe, XIVe et XVe siècle. Alors, tout d'abord, la question de l'expérimentation et des conditions de l'expérience, évoquée donc dans le commentaire de Martin de Saint-Gilles au premier aphorisme d'Hippocrate, a amené différents auteurs à proposer des règles à partir desquelles il est possible d'arriver à une certaine certitude en médecine. Ces auteurs, dans le monde latin, au XIIIe siècle, ont été, par exemple, Robert Grosstedt, donc un évêque de Lincoln, en Angleterre, mort en 1253, dont l'objectif, affirmé, était de fonder une science expérimentale, donc fondée sur une expérience organisée, structurée et vérifiable. Même si, évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on pourrait appeler science expérimentale aujourd'hui, évidemment. Or, ce Robert Grosstedt a tiré parti d'un texte traduit peu de temps avant lui, à la fin du XIIIe siècle, du XIIe siècle, et dont Nicolas a déjà parlé ce matin, le canon d'Avicenne. En effet, Avicenne, donc ce savant arabe, enfin perse, mais qui écrivait en arabe, mort en 1037, a rédigé donc une grande encyclopédie de médecine, le canon, traitant de l'ensemble de la discipline, et dans le deuxième livre, qui traite des médicaments, il proposait différentes manières de connaître l'action des médicaments. Et il proposait une méthode rationnelle, qu'il qualifiait de méthode selon la raison, permettant de déduire les qualités des médicaments à partir de caractères extérieurs, la couleur, l'odeur, la saveur, hein, qui permettent de déterminer si tel médicament va être chaud, froid, humide, sec, etc. Mais il proposait aussi une méthode qu'il qualifiait selon l'expérience et qui donc correspond exactement à ce qu'on a dit, c'est-à-dire observer l'effet concret d'une substance sur un corps donné. Et pour encadrer cela, Avicenne proposait cette règle qui devait, selon lui, garantir que l'expérience serait validée. Et c'est le texte 4 que je vous ai mis. Donc, je l'ai traduit, mais je ne vais pas le lire parce qu'il est long. Je vais simplement vous rappeler cette règle d'Avicenne, pour y regarder le texte également en même temps, et en vous indiquant que ces règles, en fait, il les tire, hein, il les synthétise d'auteurs qui le précèdent, notamment Galien et d'autres auteurs, Al-Mashusi, par exemple, un auteur arabe qui le précède. Première règle, il faut que l'action du médicament ne soit pas modifiée par un accident, c'est-à-dire par quelque chose qui vient s'ajouter à sa nature propre. Typiquement, l'eau, si elle est chauffée, eh bien, elle sera devenue chaude. Mais par nature, l'eau n'est pas chaude. Et donc, il ne faut pas que le médicament soit chauffé, soit préparé de telle ou telle manière, de sorte que ça modifie son action dans le corps humain. Deuxième règle, la médecine doit être utilisée contre une maladie simple et non pas une maladie complexe. Hein, quand plusieurs affections se réunissent dans une seule personne, il devient difficile de déterminer contre laquelle le médicament a agi et si les effets positifs sont liés à l'une ou l'autre des maladies. Troisième règle, que la maladie soit testée sur des complexions contraires. En effet, comme l'a rappelé ce matin Nicolas, le médicament a des qualités premières, chaud, froid, humide et sec, et des qualités secondes, par exemple desséchant, astringent, etc. Et le corps humain a aussi des qualités du même type. Un corps humain peut être plus ou moins chaud, plus ou moins froid, hein, selon la complexion, le tempérament de chaque individu. Et donc, si on veut être sûr qu'une maladie est efficace contre un médicament est efficace contre une maladie, il faut vérifier que ça marche sur tous les êtres humains, même ceux qui sont aux extrêmes de chaleur, de froid, par exemple. Donc, faire plusieurs expériences sur des corps très différents les uns des autres. Quatrième règle, que la qualité de la médecine corresponde au plus fort de la maladie. Puisque si on applique le médicament à un moment où la maladie est déjà en déclin, on sera trompé par l'action. Et on se trompera aussi sur son degré, sur sa puissance. Hein, parce qu'une maladie peut être plus ou moins chaud, un médicament peut être plus ou moins chaud, plus ou moins sec. Cinquième règle, le médecin doit être attentif à la durée d'action des médicaments pour ne pas être induit en erreur par un jugement trop rapide. Un médicament peut avoir un effet retardé ou lent et le médecin doit attendre et vérifier la durée de son effet. Sixième règle, l'expérience doit être vérifiée très souvent, dit-il. Le texte dit, et la sixième est que l'on observe le déroulement de son action de façon habituelle ou le plus souvent, ce qui évidemment pose problème puisque normalement ça devrait tout le temps marcher, mais Avicenne fait une petite limite en disant le plus souvent. Et donc, voilà, si ça ne marche que dans certains cas, ça n'est pas dû à la nature même du médicament, c'est dû à autre chose. Et la septième règle recommande que l'expérience soit conduite sur les hommes et non pas sur des animaux. Parce que si on le fait sur des animaux, ben, les effets peuvent être trompeurs, comme il le dit. Alors, les règles d'Avicenne sont vraiment inscrites dans une volonté de donner un cadre scientifique à la médecine, le plus scientifique possible. Le terme même de l'ouvrage, canon, vient du grec qui veut dire règle. Et Avicenne estime que l'on peut, dans une certaine mesure, fonder la connaissance certaine sur une étude structurée de l'expérience. Et évidemment, des auteurs comme Robert Grosstedt découvrant ce genre de règles, eh bien, les ont utilisées en essayant de trouver des règles équivalentes dans d'autres disciplines pour que la science soit réellement fondée sur une expérience fiable et démontrée. Alors, ce passage du canon d'Avicenne a été très commenté, notamment parce que le canon d'Avicenne, à partir de la fin du XIIIe siècle, a été utilisé comme manuel de base de médecine en Occident. Bon, il était déjà dans le monde arabe, mais jusqu'au XVIIe siècle, on étudie la médecine dans le canon d'Avicenne et il y a des commentaires universitaires, c'est-à-dire des cours, tout simplement, rédigés jusque les années 1650 au moins. Et par ailleurs, il y a aussi des commentaires au canon d'Avicenne en Inde jusqu'au XIXe siècle. Donc c'est un texte qui a eu une influence très très grande. L'un des commentaires, le premier en fait sur ce passage, est le fait d'un auteur italien qui s'appelle Dino Del Garbo, un auteur florentin qui a enseigné la médecine à Bologne et qui est mort en 1327. Et son commentaire est issu de son enseignement, mais en réalité, il semble qu'il l'ait mis en forme vers la fin de sa vie. Hein, il date de 1325, ce commentaire. Vraiment pour faire une somme sur la question des médicaments. Donc c'est limité au livre 2 sur les médicaments simples. Et donc il en arrive, en commentant ce texte, au passage où Avicenne énumère ces sept règles. Et il commence donc par dire, comme Avicenne l'a dit, il y a deux manières de connaître les médicaments, la voie de l'intellect, la voie de la raison, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, et la voie de l'expérience que je viens de décrire. Donc je vais lire le texte 5 pour vous donner un peu une idée de ce qu'il dit. Il faut donc savoir que cet art peut être acquis de deux façons. Ou bien la voie de l'invention. Et dans une telle acquisition... Et dans une telle acquisition, l'expérience précède l'art, puisque le principe de l'art est universel, comme on l'a dit, et l'universel dans les arts opératoires est trouvé à partir d'une expérience antérieure, abondante et répétée dans les choses particulières, comme il apparaît au premier livre de la métaphysique. Donc il cite exactement le passage que j'ai mentionné au début. Ou bien cet art peut être acquis par la voie de la doctrine, et de cette manière, l'art précède l'expérience, Car de cette manière, l'art est certifié par l'expérience qui le suit. Donc dans un cas, l'expérience vient en premier et au fondement de l'art. Dans l'autre cas, l'expérience vient seulement confirmer la doctrine transmise ou par la raison ou, c'est sous-entendu, par l'autorité, hein, par des ouvrages que l'on a lus. Ensuite, il détaille l'expérience. L'expérience est double. L'une est au fondement de l'art. Bon, ces commentaires sont assez répétitifs, hein, donc ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression qu'il dit tout le temps la même chose. C'est normal. C'est la pédagogie, il faut répéter 10 fois la même chose. L'une est au fondement de l'art parce qu'elle est un principe de départ de celui-ci. L'autre confirme l'art parce qu'elle confirme le raisonnement tenu d'abord dans l'esprit. Mais la voie de l'expérience est pour nous mieux connue. Elle est aussi plus facile et elle certifie la voie de raisonnement. Elle est donc plus sûre. La voie de l'expérience, si on respecte les conditions, donc celles qu'a énumérées Avicenne, est la voie la plus sûre dans laquelle l'erreur n'est pas possible. Alors que la voie de la raison est une voie dans laquelle l'erreur peut survenir. Oui, parce que si l'on respecte les règles d'Avicenne, selon Dino Del Garbo, on ne se trompera jamais dans l'évaluation d'un médicament. Alors que si on base son analyse d'un médicament sur le fait que la couleur est telle ou telle, eh bien, il peut y avoir des contre-exemples et l'erreur est possible. Ces déclarations générales, donc, mettent en avant le rôle de l'expérience et semblent dire que l'expérience est absolument certaine. Hein, on ne peut pas se tromper si on fait des expériences correctes. Bon, on pourrait s'arrêter là et dire, voilà, c'est parfait. Sauf que quand on regarde dans le détail l'analyse que fait Dino Del Garbo des différentes règles d'Avicenne, eh bien, il va soulever un certain nombre de problèmes posés par ces règles, les unes après les autres. Problèmes qui font que, en fait, l'expérience devrait être absolument certaine si elle est conforme aux conditions énumérées, sauf que respecter ces conditions est très difficile. Alors, je donne par exemple... sur la cinquième règle, celle sur la durée des médicaments, et je crois que c'est le texte 6. Non, c'est pas ça. Attendez. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Ce que je vais énumérer, c'est plutôt ce que je vais vous montrer dans le texte 6. C'est plutôt... attendez, excusez-moi, parce que sinon... Oui, voilà, excusez-moi. C'est la dernière règle. La règle sur le fait qu'il faut le faire sur un corps humain. Cette règle pose deux problèmes. Un problème éthique que j'ai énuméré, que j'ai évoqué en introduction, que finalement Dino Del Garbo n'évoque pas. Mais d'autres auteurs le font, hein, évidemment. Hein, puisque faire l'expérience sur le corps humain, là encore, se pose le problème de dans quelles conditions peut-on vraiment faire une expérimentation? Est-ce que du coup, on n'en reste pas du coup à une expérience au gré des cas qu'un médecin rencontre dans sa pratique? Mais Dino Del Garbo soulève un autre problème. Le problème de la détermination de la valeur du médicament par rapport au corps humain. Puisque le corps humain varie hein, entre un homme et une femme, un jeune homme et un vieillard, et puis entre deux personnes du même âge, du même sexe, quelqu'un qui va être colérique, qui aura un tempérament plus chaud que quelqu'un qui sera flegmatique, eh bien, ils n'auront pas la même réaction vis-à-vis d'une médecine donnée. Et donc, comment mesurer l'action d'un médicament au milieu de tous ces cas et comment donner un degré absolu, si vous voulez? Et à cette question, Dino Del Garbo va répondre en disant qu'il faut mesurer cela d'après corps moyen, le corps le plus tempéré, donc vraiment le milieu de l'être humain. C'est donc le texte 6 et ensuite le texte 7. Je lis le texte 6. Si on se demande donc quelle est la complexion de ce médicament quant à son degré distinct. Donc il y a en fait, dans la théorie médicale médiévale, il y a 4 degrés de puissance, hein, des qualités. Un médicament peut être chaud au deuxième, troisième, ou quatrième degré, premier évidemment, deuxième ou troisième ou quatrième degré. Donc, si on essaie de déterminer ce degré, comment fait-on? Il faut dire que l'on ne doit juger que tel médicament est d'un degré tempéré que d'après la seule expérience sur un corps tempéré, donc un corps moyen. On doit faire l'expérience dans ce corps-là pour connaître la vertu du médicament, parce que ce corps est comme la règle et la mesure de tous les autres. C'est vraiment le milieu. Il est comme la mesure de la connaissance des autres, et ainsi on mesurera la vertu de la médecine, d'après lui, dans les autres corps, mais le corps tempéré est la mesure et la règle de tous les autres. Il insiste lourdement. La question, du coup, est, très bien, mais comment trouver ce corps tempéré? C'est quoi un corps tempéré parfaitement? Question que vous posez sans doute, moi, que je me pose. Et Dino Del Garbo se la pose aussi, et il est obligé d'avouer que c'est très difficile à trouver, qu'en fait, ça n'existe peut-être même pas vraiment, parce que on est toujours, chaque corps est en mouvement. Hein, entre le matin et le soir, votre complexion évolue. Entre le moment où vous êtes fatigué, votre âge. Donc, il faudrait trouver l'instant précis auquel on peut observer un corps tempéré dans des conditions très particulières. Or, ça, c'est impossible. Donc, il le dit. Et il dit, à ce moment-là, il faudrait mesurer la distance qui sépare le corps test par rapport à l'idéal standard du corps tempéré. Mais là aussi, il dit, c'est difficile de mesurer finalement la différence, vraiment de la mesurer mathématiquement. Et donc, il en arrive à dire, finalement, c'est quand même assez difficile de trouver cette règle et cette mesure à partir de laquelle on va savoir de manière certaine le degré de chaleur, par exemple, d'un médicament. Et il en arrive à dire, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de variantes dans les textes sur les degrés des médicaments. Parce que comme personne n'arrive à déterminer la règle, la valeur standard à partir de laquelle on compare toutes les autres, eh bien, tout le monde varie dans les calculs. Et c'est le texte 7. C'est là une des raisons pour lesquelles, bien que les auteurs ne varient que rarement sur les complexions des médecines, ils sont à peu près d'accord pour dire qu'un tel est chaud, un tel est froid, etc. Ils varient en revanche très souvent sur leur degré, parce que la connaissance certaine du degré d'une médecine ne peut être obtenue qu'en relation à un corps tempéré. Et comme le plus souvent l'expérience est faite dans des corps non tempérés, du fait qu'il est rare d'en trouver qui soit tempéré, l'expérience ne procure dans ce cas qu'une connaissance conjecturale qui provient du raisonnement qui s'ajoute à l'expérience, c'est-à-dire ce calcul qu'il faut faire pour rétablir la différence qu'il y a entre le corps idéal et le corps réel. Et dans cette conjecture, à cause de son incertitude, on trouve une grande variété. Donc certes, l'expérience dans l'absolu devrait être parfaite, mais quand on regarde dans le détail ce que fait le médecin, il est obligé d'ajouter un raisonnement qui va amener des erreurs. Ça, c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison qui rend encore plus difficile l'expérience. C'est les cas particuliers et qui recoupe un petit peu ce que disait Nicolas avec la forme spécifique individuelle. Puisque chaque individu est différent et donc il peut se produire, le médecin ayant toujours affaire aux cas particuliers, des cas rares, particuliers, des monstres, qui font que ça va sortir des règles standards. Donc c'est le paragraphe suivant. Entre les médecines, donc les médicaments, et les corps, il y a des aspects et des proportions déterminées qui peuvent aider ou nuire, selon lesquelles telle médecine est chaude par rapport au corps de Paul, mais pas par rapport à celui de Pierre. Et ces opérations peuvent se connaître uniquement par l'expérience sur les individus et pas d'une autre manière. Donc ici, on passe presque insensiblement d'une expérimentation, c'était ça que disait Avicenne, vraiment, les règles pour encadrer l'expérience, à cette expérience vague, simplement la longue pratique de la médecine qui fait que le médecin sait par expérience que, dans certains cas, qu'il essaye de déterminer d'après des règles qui ne sont pas précisées ici, on doit se méfier ou modifier le traitement. Tout cela nous amène donc à la question de la certitude. Finalement, est-ce qu'on peut avoir une certaine certitude dans le cadre de la médecine, et notamment à partir de toutes ces expériences? Et c'est évidemment une question fondamentale pour la pratique médicale. Est-ce qu'un médecin peut être certain que s'il fait tout ce qu'il faut, ça marchera? Et est-il certain de ne pas se tromper dans les soins qu'il va administrer? Et évidemment, comme tous ces gens, il faut voir qu'ils écrivent des textes très théoriques, mais ce sont aussi des praticiens, ce sont vraiment des médecins. On a des consultations écrites qu'ils ont rendues, ils pratiquaient, et évidemment, ils ne peuvent pas répondre oui. Ils savent très bien qu'il y a des cas où les règles de médecine, qui pourtant marchent dans la plupart des cas, ne marchent pas. Cet aspect est particulièrement visible précisément dans la question qu'Avicenne a abordée ici, c'est-à-dire le dosage des médicaments. Et je vais citer un autre auteur qui m'est cher, Gentile da Foligno, un médecin italien, peut-être élève d'ailleurs de Dino Del Garbo, en tout cas de la même ambiance intellectuelle, professeur à l'université de Pérouse et de Sienne, mort en 1348, mort de la peste, ce qui pourrait faire sourire, sauf qu'il est mort parce qu'il est allé soigner des gens qui souffraient de la peste, et son but était de trouver une solution. Et il a écrit un traité contre la peste, qu'il a laissé inachevé, parce qu'il est mort, en fait, il a attrapé la peste en essayant des médicaments. Mais ce qui est très intéressant dans ce traité, c'est qu'il dit, très précisément, quand la maison brûle, on ne se pose pas la question de qui a mis le feu. D'abord, on éteint l'incendie, donc je ne vais pas me poser de questions théoriques, je vais vous montrer ce que j'ai essayé sur les malades, et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis bon, il n'a pas terminé le traité. Donc ça ne marche pas. Alors, mais ça vous prouve que c'est un praticien, ce n'est pas un homme de cabinet qui ne fait que réfléchir de manière abstraite. Donc, dans le cas des dosages de médicaments, Gentile da Foligno, de manière très intéressante, insiste sur le fait que la connaissance est particulièrement incertaine du fait des livres qui sont transmis. Vous savez très bien qu'au Moyen-Âge, donc, les livres sont transcrits sous forme de manuscrits. Et donc les scribes qui copient les livres font parfois des erreurs et peuvent se tromper. Et voilà ce qu'en dit Gentile da Foligno, donc c'est le texte 8. Donc c'est tiré d'un traité sur les proportions des médicaments. Hein. Donc c'est précisément sur les dosages. Et c'est l'introduction. La science de ce traité est très nécessaire pour ce que les livres des savants ont été altérés, non en raison des vénérables sentences qui s'y trouvent et de leur composition et canons scientifiques, donc c'est-à-dire les règles données par Galien notamment, etc., mais à cause de l'insuffisance ou de la négligence des scribes, donc de ceux qui ont copié les livres. Et de même que la transmission dans la progéniture affaiblit la forme du premier père jusqu'à ce qu'il ne soit plus convenable d'assimiler fondamentalement le nom des peuples à l'antique progéniture, oui, les peuples évoluent tellement qu'à la fin, ils ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient au départ. De même, en raison de la dégénérescence des scribes, donc c'est aussi une vision assez pessimiste hein, de l'histoire, vous l'avez compris, désormais, les livres des anciens semblent corrompus. Ce qui est prouvé, car si Galien avait copié les livres d'Hippocrate avec la première plume, c'est-à-dire c'était le premier, c'est lui qui avait, juste après Hippocrate, recopié le texte, les livres d'Hippocrate seraient plus longs et complets, et l'exemplaire de Galien de sa propre main aussi parfait que les exemplaires des scribes idiots sont, eux, parsemés d'erreurs. Donc, si Galien lui-même, qui est le meilleur des médecins après Hippocrate, avait recopié l'œuvre d'Hippocrate, il n'y aurait pas d'erreur. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, ça, c'est intéressant sur la transmission du savoir, hein, vraiment la conscience qu'ils avaient. Mais la partie de la fin est encore plus intéressante pour notre propos. Et parce que les livres de théorie sont régulés par l'intellect, les livres de pratique, presque par la seule foi que l'on donne aux expériences, pour cette raison, la rigueur des scribes est essentielle dans les livres de pratique, puisque l'intellect ne récupère jamais les canons pratiques. Et oui, les expériences, elles ne sont pas bien relatées, l'intellect ne peut pas les reconstituer. Car comme le dit Galien, cette part n'est pas scientifique, mais expérimentale. Vous voyez cette distinction qui est faite ici. Et si tu parcours les antidotaires, donc les recueils de recettes, tu y trouves une très grande diversité dans les poids. Souvent, il est écrit « once » à la place de « livre », alors pour comprendre, il faut regarder le texte latin, vous avez les petits symboles qui sont les symboles médiévaux. Hein, c'est tout au début, en haut. Once à la place de livre, drachme à la place d'once, erreur, donc ça, c'est des symboles qui se ressemblent beaucoup, donc du coup, effectivement, on peut se tromper. Erreur qui fait que le médecin qui se fie au livre doit être dit médecin de manière ambiguë, équivoque. Ce n'est pas un vrai médecin, en fait. Un médecin qui ne se base que sur les livres se trompera parce que les livres sont nécessairement remplis d'erreurs. Donc, très intéressant cette distinction ici encore entre l'intellect et l'expérience pour renforcer le poids de l'expérience et aussi insister sur le fait que dans le cas des dosages, les erreurs sont très nombreuses. La question de la certitude, donc de la connaissance médicale, avait évidemment de très importantes conséquences pratiques. Hein. C'était à la fois le moyen de ne pas faire de graves erreurs qui pourraient après entacher la réputation, voire poser des problèmes juridiques aux médecins, mais aussi justifier d'éventuelles erreurs ou échecs. Si la médecine n'est pas absolument certaine, le médecin peut justifier du fait qu'il n'arrive pas à soigner tout le monde. Du coup, il y a une tension entre la volonté d'affirmer le caractère scientifique de la médecine, donc certain, et au contraire, un caractère incertain, lié donc à tout ce que je viens d'évoquer. Et cette question de la certitude, Gentile da Foligno l'aborde aussi au tout début de son commentaire au canon d'Avicenne. Lui aussi a commenté le texte du canon d'Avicenne dans le cadre de son enseignement. Et dans le prologue de ce texte, Avicenne disait que quiconque lit son... Bon, Avicenne était quelqu'un de prétentieux, ce serait peut-être un peu exagéré, puisqu'il avait des raisons de l'être, mais disons assez sûr de lui. Et il disait, si tu lis ce livre, tu sauras tout ce qu'il faut. Et tu n'as besoin de rien faire d'autre pour être le meilleur médecin possible. Donc, Gentile da Foligno et d'autres se disent, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il suffit de lire ce livre pour ne jamais se tromper ? Et il va dire que non. Et donc il pose la question que vous avez, donc c'est le texte 9. On se demande si presque toutes les choses que l'on peut connaître dans cet art ou cette science, donc de la médecine, peut être connue de façon certaine. Et il semble que non, car certaines choses sont connues par une estimation, un jugement ou une conjecture, et donc pas par une science certaine. On retrouve les termes employés par Dino Del Garbo. Bien plus, il donne un argument qui, selon moi, est décisif. Il peut arriver que le médecin le plus expert dans cet art se trompe, même le meilleur se trompe. Donc, tout n'est pas connu avec certitude. La conséquence est claire, car le plus expert a la connaissance de tout ce qu'il est possible de connaître. Donc, alors c'est vraiment un syllogisme assez basique. Donc, si la connaissance de toutes les choses était certaine, il ne se tromperait pas. Donc, l'erreur potentielle ne vient pas du médecin et de ses qualités propres, nécessairement. Il vient de la nature même de la médecine. Gentile da Foligno va mettre l'accent, justement, sur cette partie non démontrable, non totalement certaine de la médecine. Et c'est la suite du texte que je vais vous lire maintenant. Texte assez célèbre, hein, à juste titre. Quant à nous, nous disons qu'un médecin ne peut être parfait, même s'il connaît toute la science écrite et orale qui lui a été possible d'entendre. La raison en est l'opération réelle, c'est-à-dire la vision, car le soin au malade est généré dans l'esprit une connaissance qui ne peut être obtenue dans les livres et par la voix, et qu'on ne peut enseigner. Il y a une partie non transmissible de la médecine qui ne s'apprend que par l'expérience concrète. Telle fut la sentence d'Avenzoar, donc Ibn Zuhr, un médecin andalou, dans le Taizir, livre 10, chapitre 8. Sois certain que toute science de la médecine ne s'exprime chez quiconque qu'après une grande habitude et une longue expérience. En somme, donc là c'est Gentile da Foligno qui parle, une juste pratique, soumise aux principes de l'art et aux voies démonstratives, dépend d'une double approche. Une approche scientifique qui s'enseigne et s'adresse à l'âme intellective. Et une approche expérimentale, c'est-à-dire l'acquisition de l'art par l'exercice sur des cas particuliers, qui ne s'enseigne pas, mais s'acquiert par l'habitude. Donc Gentile da Foligno précise un peu les problèmes évoqués déjà chez Dino Del Garbo, en indiquant qu'on peut diviser en réalité la médecine en deux parties. Une partie certaine, une partie non certaine. Et cette partie non certaine est fondée uniquement sur l'expérience, mais pas l'expérimentation, justement, qui, elle, serait certaine, mais cette expérience vague, obtenue sur les cas particuliers, et qui fait naître, exactement comme on le voyait chez Aristote, de manière naturelle, une sagesse, hein, une prudence, qui n'est pas une connaissance certaine, scientifique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, pour Gentile da Foligno, une connaissance qui, elle, est certaine. Et il va préciser, donc toujours dans ce prologue, qu'est-ce qui est certain et qu'est-ce qui n'est pas certain. Et c'est le texte 10 que je vais lire maintenant. Nous avons dit qu'une des connaissances en médecine est celle substantielle des membres du corps humain, donc l'essence du corps humain, et celle-là est certaine par l'anatomie, du fait de cette certitude que l'anatomie peut conférer. Une autre est la connaissance des instruments, et une telle connaissance est assez certaine, pour quelques-unes oui et pour d'autres non. Par exemple, la connaissance des doses est incertaine et estimative, comme il apparaît dans notre traité De Gradibus. C'est le traité que j'ai montré tout à l'heure. Une autre est la connaissance de la faim, comme la maladie et la santé, et parfois elle est certaine, parfois incertaine. La dernière est la connaissance du moyen d'arriver à cette faim, qui se divise en deux, donc là c'est de la scolastique pure et dure, hein, donc des subdivisions, il faudrait faire un petit tableau. La première générale, comme les soins par les contraires ou d'autres règles semblables, oui, une maladie froide, il faut la soigner par le chaud, ça c'est certain et certaine. La seconde, particulière, c'est-à-dire singulière, c'est-à-dire il faut soigner tel malade par tel médicament, ça c'est incertain. Donc on distingue un certain nombre de règles générales qui sont certaines parce qu'elles sont régulées par l'intellect, complètement rationnelles, démontrées, scientifiques, et d'autres qui sont incertaines. Et ce passage est très intéressant puisqu'il va permettre aux médecins, dans deux directions différentes, de développer l'expérience pour améliorer leur discipline. La première étant d'insister sur les caractères certains, et le caractère certain qu'il cite vraiment en exemple, c'est l'anatomie. Or, exactement à cette même époque, hein, fin du XIIIe siècle, on recommence dans les universités occidentales à faire des dissections de cadavres. Et on observe l'intérieur des corps pour voir comment sont conformés les membres. Et Gentile da Foligno lui-même, dans d'autres passages de ses œuvres, cite souvent des dissections qu'il a faites, parfois pour dire d'ailleurs qu'il n'a pas réussi à voir, mais au moins il mentionne qu'il a essayé de comprendre tel ou tel fonctionnement d'organe ou tel ou tel positionnement, ou de remettre en cause telle ou telle doctrine à partir de l'anatomie. De l'autre côté, on insiste sur l'expérience pratique, et là aussi, ça a des conséquences immédiates. Dans la plupart des universités médiévales, notamment à Montpellier, c'est très connu, il y avait des stages auprès des malades. Hein, on suivait un maître, on allait le suivre. Alors, dans le monde arabe, il y avait des hôpitaux, donc c'était encore plus structuré, vraiment des vrais hôpitaux sur le modèle de nos hôpitaux, pas les hôpitaux médiévaux qui sont plus ou moins médicalisés. Mais en tout cas, on devait systématiquement suivre le maître et observer, puis après l'accompagner et l'aider dans le traitement des cas particuliers. Donc cette distinction va permettre de traiter séparément ces deux parties, avec une recherche plus théorique et abstraite qui permet d'obtenir des règles générales, par exemple sur l'anatomie, et l'insistance sur une expérience de terrain, notamment dans le cas des médicaments. Alors, j'en arrive à la dernière partie de mon exposé. Quelles sont justement les potentialités ouvertes par ces distinctions et cette analyse, ces réflexions sur la question de l'expérience que j'ai présentée donc, à partir de quelques auteurs, mais en fait, tous les auteurs s'interrogent sur cette question, donc je pourrais multiplier les exemples. Je les ai choisis à une période précise pour donner une certaine unité. Eh bien, le premier cas, c'est que l'expérience, puisqu'elle a été revalorisée, valorisée par Avicenne, doit être mise au-dessus d'autres sources de savoir, et notamment au-dessus de l'autorité. Et, alors c'est pas nouveau à l'époque médiévale, mais on observe qu'à la fin du Moyen-Âge, il y a des remises en cause des autorités même les plus prestigieuses à partir de l'expérience, quand on peut être certain que l'expérience n'est pas trompeuse. Je vais vous en donner deux exemples. Le premier, toujours de Gentile da Foligno pour faire la transition, et puis un autre d'un médecin un peu plus tardif et français, Jacques Despard. Pour Gentile da Foligno, la question concerne au départ une affaire sur les fièvres. Il voit que Avicenne et Galien disent des choses et que ça paraît bizarre, ça paraît peu crédible. Et il hésite à remettre en cause ce que disent ces deux auteurs qui sont quand même très prestigieux. Eh bien, il dit, on peut les remettre en cause, et je vais vous en donner un exemple de la raison. Et il cite quelque chose qui n'a rien à voir. Il parle des calculs dans les reins, et en l'occurrence ici des calculs intestinaux. Donc ces pierres qui se forment à l'intérieur du corps. Galien avait déclaré, dans le De locis affectis, donc des lieux affectés, qu'il n'avait jamais vu de calculs dans les intestins, que ça n'existait pas. Et Gentile da Foligno, lui, dit le contraire. Je vous lis le texte, c'est le texte 11. Voilà. Galien, en son temps, n'a pas vu de calcul, donc de pierre, un lapis, sortant des intestins, comme il le dit lui-même dans le livre De interioribus au chapitre 5. Et pourtant, nous en avons vu en notre temps deux fois, si bien qu'il n'était pas convenable que Galien nie leur existence. Et récemment, comme j'écrivais cette leçon, donc c'est toujours un cours, maître Johannes Giuliani de Forlì, un homme digne de louange, m'a envoyé un calcul de la taille d'une noix, commune, expulsée par vomissement après une douleur à l'estomac. Et sa dureté était égale à celle du gypse, placé dans les édifices, et sa forme était ronde oblongue, c'est-à-dire de forme ovale. Ceci n'a pas été vu par nos prédécesseurs, et pourtant il ne fallait pas le nier, mais l'accepter en tant que monstruosité, se produisant rarement. Et elle dit, c'est pas parce que Galien... Donc, deux choses. Galien ne devait pas nier l'existence du calcul simplement sur son expérience commune. Il n'en a jamais vu, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas exister. C'est ce qu'il dit très clairement. Par ailleurs, si on en voit, il ne faut pas chercher d'explication pour justifier Galien à tout prix. Si un homme digne de louange ici, donc il insiste quand même sur ce médecin qui lui a envoyé, en disant voilà, et si vous-même vous avez vu des choses qui sont contraires à la doctrine, là, il ne faut pas hésiter à dire que ça peut arriver, même si il ne s'agit pas ici de remettre en cause toute la médecine, simplement accepter des cas particuliers qui se produisent rarement, donc ce sont des monstruosités, monstruosité non pas au sens esthétique, mais vraiment au sens quelque chose qui sort de l'ordre courant de la nature. Un autre exemple, l'exemple de Jacques Despard, concerne... L'exemple de Jacques Despard concerne le traitement par le régime. Il dit, plus la fièvre est forte, plus il faut une diète forte, donc moins manger. Et il dit ça, c'est ce que disent tous les auteurs, Galien, Hippocrate, Avicenne. Ils disent vraiment une diète très sévère pour soigner tel type de fièvre. Mais Jacques Despard, qui est quand même quelqu'un de pessimiste, vous allez voir la dernière citation, dit ça c'était valable à leur époque parce que les hommes avaient un mode de vie particulier. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus le même mode de vie et donc on ne doit pas accepter ces règles bêtement. Il faut les adapter selon l'expérience que l'on a au cadre courant. Et c'est le texte 12 que je lis aussi rapidement. Bien qu'Hippocrate et Galien aient prescrit cela, aujourd'hui nous ne l'observons plus. Soit parce que les hommes de notre temps, adonnés à la gloutonnerie, ne sont plus habitués à subir d'importantes abstinences, ça c'est le côté pessimiste de Jacques Despard, soit parce que leurs serviteurs, et surtout les femmes, ne croient jamais avoir assez empli d'aliments le ventre des malades et s'élancent de leur langue, en cachette ou ouvertement, contre ceux qui ont imposé ces diètes strictes. En vérité, en France et dans nos régions, où les habitants sont pour la plupart voraces, il n'est pas habituel d'user d'une diète aussi stricte. Et si des médecins l'imposent, donc là, il y a un élément professionnel, hein, il dit qu'est-ce qui va se passer si vous essayez quand même de le faire, la clameur, et là, on passe au côté très misogyne de Jacques Départ, la clameur et le caquetage des femmes, les dix femmes, elles qui s'appliquent à farcir les ventres de leur mari d'une abondante nourriture, peut-être dans le but d'entretenir leur puissance sexuelle. Donc, bon, c'est intéressant comme remarque, je ne me hasarderai pas à tâcher de prouver les dires de Jacques Départ. Toujours est-il que, même si c'est pour des raisons probablement un peu idéologiques quand même, en tout cas son amour des femmes n'est pas visiblement énorme, puisque c'est à plusieurs endroits, hein, c'est pas que là qu'il en dit du mal, néanmoins, on remarque qu'il est tout à fait prêt à remettre en cause la théorie transmise par l'autorité sur la base de son expérience, qui correspond à une expérience là courante. Hein. Il a observé que les hommes mangent beaucoup plus et ne sont pas habitués à des diètes qui, de fait, pourraient avoir des effets néfastes. Donc ça, c'est un premier aspect. On peut remettre en cause l'autorité selon certaines expériences. Mais cet aspect a une contrepartie, c'est qu'il ne faut pas le faire à la légère. Galien, Hippocrate, les grands auteurs, ont eux-mêmes fait des expériences très nombreuses. Ils étaient d'une intelligence, sinon supérieure, du moins très élevée. Et donc, dans le cadre de l'expérience, l'erreur guette toujours. Et il faut savoir distinguer ce qui relève des cas monstrueux particuliers, qui en fait ne remettent pas en cause la théorie, et les véritables erreurs dans la théorie, qui correspondent en fait à quelque chose qui n'apparaît jamais. Et je vous donne juste un très rapide exemple, c'est le texte 13, où Gentile da Foligno, dans son commentaire au Canon d'Avicenne, critique Razi, le médecin Razi, qui avait voulu remettre en cause Galien d'après ses expériences. Razi est un médecin iranien, persan, entre le 9e et le 10e siècle, mort en 925, de Rai. Et Razi est très connu pour ses expériences. Hein, c'est vraiment un praticien très célèbre, déjà au Moyen-Âge et encore aujourd'hui. Hein, ses textes ont été traduits de l'arabe jusqu'au 18e siècle, hein, du fait de son intérêt pratique. Et il a écrit notamment un livre qui s'appelle « Doutes sur Galien ». Où il critique Galien sur plein de points en disant voilà, il s'est trompé sur plein de points. Alors, ce n'est pas ce texte-là qui n'a pas été traduit en latin que Gentile da Foligno mentionne, mais un autre ouvrage de Razi, un ouvrage général sur la médecine. Et il va critiquer Razi pour avoir critiqué Galien de manière trop légère. Et bon, en l'occurrence, c'était sur le fait qu'il existe des fièvres qui durent 7 ou 8 jours, enfin qui reviennent tous les 7 ou 8 jours. La question de départ ne nous intéresse pas. Mais Gentile da Foligno dit. Il s'est permis de critiquer légèrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a diverses possibilités qui permettraient d'expliquer, sans remettre en cause la théorie, l'expérience qu'il a rencontrée. Et c'est la dernière qui nous intéresse, que je lis, donc c'est le texte 13. Autre possibilité, ce qui a été senti, donc par l'essence, ce que le médecin a observé, est vrai en raison des conditions individuelles qui nous interdisent toute perfection dans cet art. Donc on revient sur cette question de la certitude. Et j'appelle conditions individuelles non seulement la disposition et la condition d'un individu donné, à qui, de toute éternité, personne ne fut ni ne sera jamais identique. Oui, tout le monde est différent. Et entre lequel et la médecine qui opère, peut survenir une propriété singulière. Il peut y avoir quelque chose de singulier entre un individu particulier et une médecine. Ça, c'est la première possibilité. Mais j'appelle aussi, conditions individuelles, toutes les dispositions cachées, se produisant rarement, et à la connaissance précise desquelles le médecin ne peut parvenir par un quelconque signe certain. Ici, on retrouve exactement l'occulte évoqué par Nicolas ce matin. Donc, il faut bien distinguer ce qui est rare de ce qui est fréquent, et les cas rares ne remettent pas en cause la règle absolue. Et on comprend mieux le passage d'Avicenne où il disait « le plus souvent hein, » et non pas « toujours ». Du coup, est-ce qu'on en arrive à une aporie ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, c'est à la gueule du client, si je puis dire ? C'est-à-dire que parfois, il faut prendre en compte l'expérience, parfois non. Bon. Eh bien, pas tout à fait, car on a réussi à isoler deux choses. Première chose, l'importance de relever ces expériences rares. Ces expériences rares, même si elles ne remettent pas en cause la théorie, doivent être notées, mentionnées, comme cas particuliers pouvant arriver. Et donc le médecin doit être préparé à l'idée qu'il peut y avoir des cas rares et que donc il ne doit pas traiter n'importe comment, de manière systématique, uniforme, tous les patients. Il doit s'attacher à leur individualité. Deuxième point, il y a des domaines où la connaissance, elle, est certaine, et c'est le cas de l'anatomie. Et il se trouve que ces deux éléments sont précisément ceux qui, à partir de la fin du Moyen-Âge, 15e siècle, mais aussi à l'époque moderne, 16e et 17e siècle, vont se développer très largement dans le cadre de la médecine de la Renaissance. C'est-à-dire l'observation de nombreux cas particuliers avec la rédaction de recueils d'experimenta ou d'historiés. Hein, donc on raconte des cas, parfois rares, parfois courants. Hein, on fait des recueils de très nombreux cas pour montrer l'immense diversité de l'expérience. Deuxième chose, la dissection, qui, je vous l'ai dit, donc, réapparaît à la fin du XIIIe siècle, notamment en Italie, se développe très largement dans tout l'Occident et aboutit à des grandes synthèses anatomiques au XVIe siècle, la plus connue étant bien sûr celle de Vésale, mais il y en a d'autres. Hein, et l'anatomie est vraiment une branche très dynamique de la médecine à la fin du Moyen-Âge. Eh bien, ces deux courants que l'on observe, que vraiment les historiens de la médecine du XVIe siècle ont observé depuis longtemps, en fait, ont pour origine, évidemment, des conditions sociales de pratique de la médecine dans le monde de la Renaissance, donc je ne vais pas y revenir, mais il me semble qu'elles ont été préparées par toute une réflexion sur la nature et le statut de l'expérience et sur ce que l'on peut savoir, ce que l'on ne peut pas savoir, ce que l'on doit relever, ce que l'on ne doit pas relever, et ça provoque ces écritures. Et je vais vous donner deux exemples, et après j'en aurai terminé. Le premier, un exemple à nouveau tiré cette fois de Michel Savonarole. Alors, je vais peut-être pas le lire en entier parce que c'est très long. Je vais lire le début. Il a écrit un traité sur les bains, qui lui-même relève de cette catégorie des expériences. Le bain, il relève tous les bains d'Italie et du monde entier, mais enfin, en fait, c'est surtout l'Italie. Et il dit, voilà, tel bain a tel effet, c'est observé, j'y suis allé, j'ai testé, j'ai vu les malades guérir, etc. Donc, c'est du thermalisme, en fait. Et le thermalisme se développe beaucoup. Il n'y a pas de réflexion théorique très développée, hein, c'est vraiment des recueils de bains différents. Et le deuxième, donc, ce sera sur l'anatomie. Donc, Michel Savonarole, médecin, donc, mort en 1468, grand-père de... père ou grand-père ? Un doute me vient. Bah, du réformateur religieux de Florence qui chasse les Médicis à la fin du XVe siècle, peu importe. Michel Savonarole, donc, raconte une histoire sur une source située près de Modène. Et c'est très intéressant, la relation qu'il en fait. Je vais juste lire rapidement des petits extraits, vous lirez l'ensemble si vous le voulez. Lorsqu'en 1448, les vaches de ce lieu tombèrent malades, urinant du sang, chaque jour elles buvaient cette eau, donc une eau qui se trouve sur place, et elles étaient guéries en quelques jours, ce que les pasteurs, le voyant de leurs yeux, annoncèrent aux hommes du village, et la plupart de ceux qui souffraient de maladies des reins et de la vessie, étant d'avis que la maladie des bêtes provenait des reins ou de la vessie, décidèrent de boire de cette eau, jugeant qu'ils pouvaient ainsi être guéris de leurs affections. Typiquement, l'expérience telle qu'est relatée par Aristote à partir d'une série de cas communs. Il fut découvert ensuite que des patients souffrant de calculs et d'un saignement du col de la vessie étaient guéris ainsi avec cette boisson. Cette chose, comme elle était digne de mémoire et d'honneur, fut annoncée publiquement, etc. Donc il raconte que le seigneur du lieu pense qu'il va pouvoir faire de l'argent avec cette eau, donc il veut absolument faire la publicité, et il écrit à Michel Savonarole, médecin très célèbre, comme il le dit lui-même, pour avoir son avis et sa caution pour cette eau. Donc il écrit, et jaloux de ses vertus, il prit soin de me solliciter, c'est la fin du deuxième paragraphe, par des messagers, des lettres et de sa propre bouche pour que j'établisse par l'enquête la minéralité de l'eau, ce que je fis volontiers. Et donc on passe de cette expérience vague à une expérimentation, en fait. Et voilà ce qu'il dit. Cette eau est froide en acte, claire et froide en acte, et dépourvue de goût étrange et abominable. Son minerai, d'après ce que j'ai pu savoir de plusieurs personnes, a fugitivement quelque chose du soufre. De fait, quand on jette sur le feu un peu de sa boue, elle rend une faible odeur de soufre. Donc là, on est dans l'expérimentation. Elle est très mêlée d'alun, ne contenant que peu de sel. En vérité, elle est grandement tempérée en tout cela, ce qui la rend astringente et dessiquante, sans pour autant être piquante. D'où il ressort qu'elle n'est pas élevée en degré de chaleur et qu'elle parvient peut-être à la fin du premier ou au début du deuxième degré. Mais en sécheresse, elle tend vers la fin du deuxième et le début du troisième, en vertu de quoi il est entendu qu'elle vaut beaucoup pour les ulcérations dont on espère la réparation. Donc on voit ici le processus qui part d'une expérience courante à un embryon de raisonnement et d'expérience menée sous forme d'une expérimentation. Deuxième cas pour terminer, Jacques Despard, à propos de l'anatomie, qui va remettre en cause tout simplement ce que dit Galien. Mais au sujet de Galien, qui fut le plus grand de tous dans les expériences d'anatomie, on doit beaucoup s'étonner, donc quand même on s'étonne, qu'il n'ait pas suffisamment dénombré les os de la mâchoire, ni qu'il les ait convenablement attribués. Il dit en effet qu'il y a un troisième os de la mâchoire supérieure dans lequel sont contenues les incisives. Or, il est certain, d'après l'anatomie, ex anatomia, or il y a une ambiguïté en latin, puisque anatomia veut dire ou l'anatomie, la science, ou la dissection elle-même. Donc, et là, c'est clairement la dissection, d'après la dissection, que les incisives ne sont pas contenues dans le même os, Mais l'une d'entre elles est dans l'os quadrilatère droit, l'autre dans l'os quadrilatère gauche. Mais ces défauts proviennent peut-être du traducteur Nicolas de Reggio ou des scribes. Donc quand même, on dit que c'est peut-être pas la faute de Galien s'il y a une erreur, c'est peut-être uniquement ses transmetteurs. Donc voilà pour conclure, j'en arrive à la conclusion. Les médecins sont face à une difficulté. Il ne leur est jamais possible de réellement mener des expérimentations le point de vue moral, éthique, que ce soit dans un cadre chrétien comme au Moyen-Âge ou même plus tard dans un cadre général, leur interdit de le faire. De plus, chaque cas étant différent, chaque cas pouvant susciter des réactions monstrueuses au sens qu'on ne voit jamais, on ne peut pas être absolument certain du savoir en médecine. Néanmoins, on a vu que les médecins mettent en œuvre différentes méthodes pour isoler certaines disciplines et les classer par ordre de connaissances possibles ou pas, et du coup de les traiter d'une manière un peu différente. Hein, ce qui peut être certain, on va remettre plus facilement en cause l'autorité. Ce qui n'est pas certain, on va soi-même se renseigner auprès des personnes qui ont une expérience de terrain. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux problèmes, évidemment, existent toujours, en fait, sont inhérents à la médecine. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a disparu. Et ils sont donc déjà pensés au Moyen-Âge. Et évidemment, qu'est-ce qui fait que la solution n'est pas vraiment trouvée ? Eh bien, c'est l'absence de mathématisation, en réalité, de tout cela. Quand on veut mesurer l'écart qui existe entre un médicament, une personne, ces histoires de degrés, ça reste très flou. Vous avez vu, fin du premier, début du deuxième, bon, c'est pas du tout chiffré. Or, justement, qu'est-ce qui, aujourd'hui, domine la médecine contemporaine ? Comment les médecins actuels résolvent ce problème de l'incertitude liée au cas particulier? Eh bien, c'est ce que l'on appelle, en anglais, il n'y a pas vraiment de terme français, les evidence-based medicine, la médecine fondée sur l'évidence, enfin sur la preuve plutôt, excusez-moi de ma traduction mauvaise. Qu'est-ce que c'est que cette médecine? Voilà la définition que l'on peut trouver. L'utilisation d'approximations mathématiques pour le risque, le bénéfice et le mal, dérivée d'une recherche approfondie sur des échantillons de population, pour aider la prise de décision clinique dans le diagnostic, la recherche ou le traitement des patients individuels. C'est donc, en fait, des statistiques qui permettent d'avoir des estimations, des approximations mathématiques sur les résultats. Et quand ils atteignent un certain niveau, eh bien, on considère que le médicament, le traitement ou le diagnostic est valable. Donc finalement, on est dans une situation assez proche de celle du Moyen-Âge. On n'a jamais une connaissance absolument certaine, sauf pour l'anatomie d'ailleurs, ce que l'on pourrait tout à fait dire, sauf que la manière de déterminer la valeur de ces expérimentations est beaucoup plus sophistiquée et plus, on dirait aujourd'hui, plus scientifique, simplement parce qu'elle est mathématisée et calculée selon des méthodes statistiques issues notamment des échantillons de population représentatifs, etc. Donc voilà pour ce que je voulais dire sur cette question de l'expérience et j'écoute vos questions volontiers.
Je crois que je ne peux pas rester sans faire quelques commentaires. Première chose, donc evidence-based medicine, c'est basé sur les preuves. C'est la traduction exacte. Deuxième chose, je pense qu'on pourrait refaire exactement la même conférence en changeant le titre et en mettant bonne pratique clinique au XXIe siècle. Je pense que tous les paragraphes et tous les textes qui ont été cités sont parfaitement exacts à l'heure actuelle en médecine. Ça pose deux problèmes pour lesquels on pourrait réfléchir, c'est sur la formation des médecins. Vous le savez certainement hein, que les étudiants en médecine sont sélectionnés sur un concours au bout d'une première année, concours extrêmement sélectif, mais qui n'a pour but que de sélectionner des gens qui sont capables de remplir leur asile d'ignorance. Et en aucun cas d'utiliser ça sous forme d'un art, c'est-à-dire celui d'utiliser à juste escient leur bonne connaissance. Et chaque année, on est confronté parmi nos internes en médecine à des jeunes médecins qui sont des esprits brillants, mais qui sont incapables d'affronter un patient. La deuxième chose qui se pose, c'est le problème de l'expérience. Vous savez également que dans les hôpitaux publics, la plupart des gestes réalisés par les médecins, que ce soit dans les services ou en garde, sont faits par les internes, c'est-à-dire des jeunes internes en formation, et donc loin des PH seniors qui ont, on va dire, l'expérience. Donc voilà les commentaires que je voulais faire. Bravo pour cet exposé.
Merci. Je vous remercie parce que je ne me permettrai pas, je me serais pas permis d'aller aussi loin de ce que vous dites, mais en fait, c'est fondamentalement ce que je pense. Donc, merci beaucoup. Je n'ai rien à ajouter.
Sauf que je pense que tous les médecins seniors sont conscients de ça.
Oui, oui. Ben, c'est vraiment cette question. C'est vraiment une expérience qui vraiment, ils insistent sur la durée de cette expérience. Elle ne peut pas s'acquérir rapidement. C'est impossible. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour votre remarque.
Je vous en prie.
Ça rebondit un peu sur ce qui vient d'être dit, mais aussi sur finalement tes conclusions. La médecine moderne, finalement, s'intègre dans le champ scientifique via les mathématiques. Alors peut-être aussi un peu via la chimie quand même, à travers tout ce qu'il y a à la pharmacie. Là, finalement, dans la présentation, la pharmacie est relativement absente. Il y a quelque chose peut-être un peu de... autour de... des eaux et donc de savoir quelles sont leurs qualités ou pas, mais on est loin quand même des potions ou des médicaments, des choses de ce type-là. Et je me demandais finalement, quand ils essayent de définir l'art de la médecine, quel est le champ des connaissances dans lequel ils essaient de se rattacher par rapport au champ des savoirs médiévaux, les arts libéraux, la théologie, enfin tout ce qui fonde les champs de la connaissance aux différents niveaux. Dans quel cadre se situe finalement la médecine, à la fois théorique et expérimentale, et justement dans cette tension que tu montres entre les deux?
Alors, oui, j'ai pas du tout évoqué ça, mais tu as raison de le dire. La médecine n'est pas, dans les classifications des sciences telles qu'elles sont diffusées à partir du XIIe siècle dans le monde occidental, mais telles qu'elles existaient déjà avant, la médecine ne fait pas partie des sciences proprement dites. Et la médecine, par ailleurs, n'est pas dans les arts libéraux. Et certains, du coup, la mettent du côté des arts mécaniques, au niveau de, par exemple, Averroès dit, mais aussi, donc Averroès au XIIe siècle, mais au XIIe siècle, un auteur latin comme Luc de Saint-Victor dit, c'est au niveau de l'agriculture, de la conduite des navires, éventuellement de l'art militaire, ou même de la fabrique des cordes. Donc c'est vraiment, alors rien de scientifique. Cela dit, les médecins, pour des raisons sociales assez évidentes, la science est plus prestigieuse, ils enseignent à l'université, ils ont tendance à vouloir montrer que c'est quand même une science. Et aussi parce que la médecine, c'est de toute façon quelque chose de compliqué à définir, précisément parce que c'est un peu à cheval sur diverses disciplines, tente de relier la médecine aux sciences telles qu'elles sont conçues au Moyen-Âge. Et du coup, il va y avoir différentes... tous les auteurs essaient de positionner par rapport à ce qu'on appelle donc, au Moyen-Âge la philosophie naturelle, donc en gros la biologie. Et il y a différentes solutions qui sont évoquées. Certains disent qu'en fait la médecine doit se contenter d'appliquer, c'est un art opératoire qui doit suivre les principes vrais de la biologie, de la philosophie naturelle, mais qui n'a rien lui-même, qui doit se contenter d'appliquer et de recevoir du philosophe les principes et simplement se contenter de l'art. D'autres disent qu'une partie de la médecine, c'est cette philosophie naturelle. C'est-à-dire que la biologie fait partie de la médecine dans une certaine mesure. Et donc, pour la question des médicaments, par exemple, oui. Pour la question de l'anatomie, oui. Donc, il y a différentes solutions à aborder selon alors là, des critères personnels, aussi sociaux, hein, franchement, c'est très visible. Aussi du parcours, les médecins ont tendance à dire que dans la médecine, il y a une partie scientifique. Les non-médecins ont tendance à la rejeter hors de ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, il manque un bout, alors.
Ils cherchent à... Pour le coup, là encore, ils expérimentent, ils essaient de raccrocher. Ils n'ont pas une théorie épistémologique de la médecine à proprement parler, mais ils essayent
Ils en ont une, mais elle est très variable, selon les auteurs, précisément pour ce problème-là. Parce que on a du mal à la placer. De fait, c'est lié à la nature même de la médecine. C'est quelque chose qui n'est pas une science. C'est pas comme par exemple les mathématiques ou précisément des sciences, enfin des arts bien connus comme par exemple la fabrication des cordes. C'est plus compliqué, justement.
Il serait peut-être intéressant de rappeler quelle était la position de l'Église par rapport à la dissection, parce que les idées reçues veulent que, justement, il y ait une interdiction d'ouvrir le corps parce que Dieu a fait un corps parfait. Alors, il y a une espèce de... Il y a une interdiction, même un tabou sur le corps ouvert. Donc, qu'est-ce que tu pourrais rappeler
Alors, en fait, c'est une question assez complexe parce que, en réalité, l'Église catholique, et même, en fait, d'ailleurs, dans l'islam, c'est la même chose, il n'y a pas d'interdiction du tout. de faire des dissections, à aucun moment. Sauf que certains, quand même, ont des scrupules à le faire, et parfois même disent qu'ils ne le font pas, ou parfois ils demandent l'autorisation aux autorités religieuses qui leur accordent. Du coup, il y a deux interprétations possibles à ça, à ce scrupule. Un scrupule, en fait, lié à un tabou, lié au corps, à l'ouverture du corps, et qui est indépendant de toute forme de structuration du dogme. Hein. C'est quand même quelque chose d'étrange. Et le tabou n'est pas nécessairement du côté du médecin, mais plutôt du côté de la famille du mort, en fait. Hein. C'est plutôt ça le problème, souvent. L'autre raison, une raison plus pragmatique, c'est que au moment même où les dissections commencent à se multiplier, donc à la fin du XIIIe siècle, le pape Boniface VIII prend en 1298, je crois, une bulle qui s'appelle, dont le titre est De Testam Deferitatis, qui interdit une pratique très courante à son époque, qui consistait à dépecer les corps des personnes mortes pour enterrer des parties à différents endroits, de sorte que le mort va recevoir les prières de différentes institutions religieuses. Donc on met le corps à un endroit, les entrailles à un autre, les pieds à cet endroit, etc. Par exemple, Saint-Louis a été découpé en petits morceaux et éparpillé sur le long de son trajet de retour de Tunis. Et ça, le pape l'interdit, parce qu'il dit que c'est horrible, voilà, il ne faut pas faire ça. Mais, parce qu'on faisait bouillir le corps, enfin, c'était des choses horribles. Hein. Mais en fait, il n'interdit pas du tout la dissection. Mais il y a quand même donc cette réticence qui fait que certains auteurs demandent quand même des autorisations qu'ils obtiennent. Et par ailleurs, il y a un problème au Moyen-Âge, c'est l'obtention des corps. Et les seuls corps qu'ils obtiennent sont des corps de condamnés à mort, généralement, parce qu'on ne demande pas leur avis. Et dans les statuts universitaires, à partir du XIVe siècle, on prévoit une ou deux dissections par an, souvent en Italie. Et beaucoup de médecins se plaignent du fait que ce n'est pas assez pour vraiment, réellement regarder les corps. Et on a des cas, notamment à Bologne, au début du XIVe siècle, de médecins et de leurs élèves qui sont en procès, qui ont été arrêtés en train de, la nuit, déterrer les cadavres dans les cimetières pour aller faire des expériences. Des médecins très célèbres, hein, vraiment des médecins très connus, qui sont attrapés comme ça. Donc, le problème, c'est plutôt l'obtention des corps, et certainement, il y a un tabou. Par exemple, Galien n'a jamais disséqué des corps humains, il a disséqué des singes, alors qu'il n'était pas chrétien. Donc, ce n'est pas l'Église en soi qui lui a posé problème, c'est une gêne à le faire qui est compréhensible, en fait.
Merci.
Quelque chose qui m'a frappé, c'est que tu as commencé par la citation d'Hippocrate où il explique que les expériences sont trompeuses. Et ensuite, dans le texte de Foligno, non, pardon, de Dino del Garbo, le 5, à la fin, il dit « La voie de l'expérience, si on respecte les conditions, est la voie la plus sûre dans laquelle l'erreur n'est pas possible, alors que la voie de la raison est une voie dans laquelle l'erreur peut survenir. » Et donc, quel type d'erreur on peut avoir dans la voie de la raison ?
Alors, la voie de la raison, c'est une voie purement déductive qui n'a aucune expérience pour Avicenne. C'est pour ça que... Et du coup, c'est, en gros, un médicament qui est rouge de couleur sera chaud, par exemple. Mais il dit, mais des fois, il y a des médicaments qui sont en fait... qui sont à la fois chauds et pas rouges, et inversement, des médicaments qui sont rouges, qui en fait ne sont pas si chauds que ça, ou ne le sont pas. Donc en fait, ce sont des tendances, qui sont souvent d'ailleurs basées sur une expérience au départ, mais qu'on ne peut pas généraliser, en fait. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a des erreurs possibles, parce qu'il y a des... Voilà, il y a des... Donc c'est ce qu'il appelle la voie de la raison, en fait, ce n'est pas un raisonnement à partir de principes vrais, etc., ce n'est pas un raisonnement scientifique.
Oui, je voulais poser une question à propos du texte de Michel Savonarole. C'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, on voit le passage de l'expérience à l'expérimentation, en quelque sorte. Et à la fin du texte, donc, il raconte qu'il détermine le degré de chaleur. Il hésite, hein, fin du premier degré, début du deuxième degré. Mais alors là, la question éternelle, c'est comment il fait concrètement pour savoir premier degré. Il n'y a aucun texte qui indique le moindre critère, en fait.
Non. En fait, si on regarde bien ce qu'il dit avant, il accumule des preuves qui vont l'amener à cette déduction. Parce qu'il dit, le soufre, par exemple, là, il y a un certain consensus chez les auteurs pour dire qu'il va être chaud à un certain degré, sec à un certain degré, de la même manière l'alun, le sel, etc. Donc il accumule, il essaie de faire une composition chimique de l'eau, et après, s'il y a beaucoup de sel, ça va avoir plus d'influence, etc. Et il fait une sorte de péréquation, donc là, c'est selon la raison, elle est piquante, donc ça, c'est un élément de saveur, et donc ça l'aide à... Mais à la fin, très sincèrement,
c'est complètement pifométrique. C'est-à-dire qu'il arrive, bon, il a vu tout ça, il voit à peu près. Bon, à peu près, ça donne à peu près ça. Et il est toujours évidemment très difficile de dire que, puisqu'on a remarqué que cette eau avait une efficacité sur tel type de maladie, bon, ben, on va, comme par hasard, trouver qu'elle correspond au degré opposé à la maladie, parce qu'elle soigne la maladie. Donc, sachant déjà le résultat auquel on veut arriver, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être assez sèche, c'est ce qu'il veut dire, hein, elle a besoin d'être assez sèche, donc il va trouver les arguments qui prouvent qu'elle est sèche. Donc là encore, même si c'est ça ressemble quand même à une expérimentation, je pense qu'il a vraiment, là pour le coup, mis de la boue sur le feu, enfin, je ne vois pas pourquoi il aurait dit ça. Et puis, malgré tout, on n'est pas dans un cadre d'expérimentation à la Claude Bernard, quoi, pour dire ça simplement.
Peut-être une question un tout petit peu marginale. Moi, j'étais très impressionné par la citation 8 avec cette question de la dégénérescence du livre, une sorte de malaise dans la transmission qui met en avant là, enfin, donc un modèle générationnel de la dégénérescence du livre et qui pose peut-être la question de la représentation, la question du rapport à du mot à la chose, quoi. Il semblerait que, je ne sais pas si c'est pertinent de le dire, que si le discours représente l'idée, il y a moins de chances d'erreur que s'il doit se rapporter à la chose, au réel de l'expérience. Ça paraît une interrogation sur la transmission qui me paraît tout à fait intéressante.
Oui, tout à fait. Oui, oui. L'idée de transmettre, il dit vraiment les ouvrages de pratique, pose un problème parce qu'on ne peut pas vraiment transmettre, il le dit par ailleurs dans d'autres, on ne peut pas transmettre la pratique en fait par écrit, ni même par oral. Ouais. Et donc, on la transmet avec une certaine approximation qui, par ailleurs, en plus, pose des problèmes parce qu'une fois écrite, elle peut être modifiée. On peut pas elle n'est pas rationnelle quand elle est écrite. C'est vraiment, ce sont des histoires qu'on raconte en fait.
Une sorte d'inadéquation du discours à l'expérience ou à la chose qui relève du réel.
Médiéviste, mais qui n'aurait jamais ouvert un manuscrit. Les citations sont en latin retranscrites, mais il y a des abréviations dans les textes. Tous les mots sont abrégés, ce qui rend difficile la lecture. Et souvent, les textes étaient copiés par des scribes qui ne comprenaient pas ce qu'ils écrivaient. Donc, quand nous-mêmes, on travaille sur les manuscrits, on peut vous dire qu'il y a énormément d'erreurs, de compréhension, etc. Donc, ce n'est pas étonnant non plus d'avoir ce genre de réflexion qu'on trouve pas seulement dans les textes de médecine, d'ailleurs, que moi j'ai trouvé dans les textes de mathématiques. Dès qu'on travaille sur des manuscrits, on voit bien qu'effectivement il y a plein d'erreurs, plein d'erreurs. Donc, ils en sont conscients.
La remarque aurait une portée plus pragmatique, pratique.
Oui, ils connaissent les scribes, hein, c'est leurs étudiants des fois.
Oui, mais le truc, c'est qu'il dit que on peut pas corriger, quoi. C'est impossible de corriger. Oui. Alors, sauf que son traité va être précisément un traité pour comment corriger malgré tout un traité de pratique.
C'est vrai qu'en mathématiques, quand il y a des fautes, c'est des fois plus facile. C'est-à-dire que si le scribe, je dis n'importe quoi, nous parle de cercle alors qu'il est évidemment question de carré, c'est plus facile de corriger. Aussi, en mathématiques, si le résultat d'une addition est faux, on peut corriger le résultat de l'addition. Mais c'est vrai que là... Si les valeurs des médicaments sont fausses, on ne peut pas corriger. Donc, voilà, juste un complément.
Merci beaucoup, Joël. Donc, on passe à Aurélien.
Bien. Donc, c'est avec plaisir qu'on termine cette journée avec Aurélien Robert, qui est chargé de recherche au CNRS à Tours, au CESR de Tours, et qui travaille beaucoup sur les questions d'atomisme et a été un de ceux qui donc, nous ont expliqué, grâce à ses travaux, que contrairement à toutes les idées reçues fausses sur le Moyen-Âge, il y a bien de l'atomisme au Moyen-Âge, et donc c'est des choses dont il va nous parler ce soir.
Merci Sabine et merci pour l'invitation. C'est la première fois que je viens ici, je suis très heureux. Et quelques remarques préliminaires avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous êtes peut-être fatigué à la fin de la journée. Un mauvais jeu de mots, j'espère pas vous atomiser après ces superbes conférences. Ouais, c'est ça, là, je vais vous détruire pour de bon. Non, simplement quelques mots pour vous dire qu'à première vue, le titre que j'ai donné, l'idée d'atome entre science et théologie, a pu vous surprendre peut-être, pour plusieurs raisons. D'abord, ça paraît un peu éloigné du thème général de la journée, le rapport à l'expérience et à la nature. Je vais essayer de vous montrer qu'il y a quand même un lien. Mais c'est vrai que la simple évocation de la théologie, dès le titre, a pu en surprendre certains. Certains y verront même un gage de non-scientificité, a priori quasiment. Et quant au rapport à l'expérience, évidemment, il paraît immédiatement assez lointain. Doublement lointain, on peut considérer que la théologie est assez lointaine de l'expérience. Et quant au concept d'atome lui-même, il paraît redoubler cet éloignement, dans une certaine mesure, en tout cas vis-à-vis de l'expérience. Puisque à une époque où les microscopes n'existaient pas encore, évidemment, l'idée même d'atome était nécessairement abstraite et ne pouvait découler directement d'une expérience, encore moins d'une expérimentation, sinon par analogie, comme c'était le cas chez Épicure et Lucrèce dans l'Antiquité, qui, si vous vous souvenez de ces textes, en effet, illustraient le mouvement des atomes dans le vide par la poussière qu'on voit en contre-jour dans un rayon de lumière en certaines occasions. Donc à première vue, évidemment, ce dont je vais parler paraît très éloigné à la fois de l'expérience et peut-être même de la nature. Et c'est cet angle qui m'intéresse le plus, vous allez voir. C'est-à-dire que c'est cet écart entre un modèle théorique d'un côté, donc l'atomisme, et le monde empirique et naturel de l'autre, que je souhaiterais discuter aujourd'hui. C'est-à-dire, pour le formuler autrement, ce que j'appelle atomisme, je vais essayer de le définir plus précisément, a-t-il, en fin de compte, vocation à expliquer la nature et expliquer le monde sensible ? Ça ne va pas de soi. Et on verra, une question encore plus profonde peut-être, dans quelle mesure on peut juger ces textes qui défendent véritablement l'existence d'atomes, peuvent-ils les juger qualifiés de scientifiques ? Voilà le genre de questions que j'aimerais aborder aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, pour le dire aussi rapidement d'emblée, c'est que les théologiens dont je vais parler, il s'agira essentiellement de théologiens, entendent bien décrire la constitution du monde et expliquer le système de la nature. Et pour autant, leur méthode, vous allez voir, leur raisonnement n'est pas pur, en quelque sorte, du point de vue de ce que nous appellerions science et ce que même les médiévaux appelaient science à l'époque. Alors, pourquoi ce titre encore, entre science et théologie ? Il y a un fait remarquable, vous savez, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, ce qu'on appellerait plus la science, la philosophie naturelle, dont on a parlé, s'enseigne à la faculté des arts essentiellement et pas à la faculté de théologie. Et pour autant, les seuls défenseurs de l'idée d'atome au Moyen-Âge, enfin, en tout cas, la période qui m'intéresse, je dis d'emblée, c'est le XIVe siècle, sont des théologiens. Ce qui, à première vue, est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on a l'image d'une théologie chrétienne en particulier qui refuse par essence, quasiment, l'atomisme, en tout cas dans ses versions antiques, à savoir le matérialisme d'Épicure et de Lucrèce. Et bien, paradoxalement, ces atomistes du XIVe siècle sont tous théologiens. Et donc c'est ce point qui m'intéresse particulièrement. C'est-à-dire que si vous ouvrez les commentaires à la physique d'Aristote, on a vu aujourd'hui que c'était un des exercices fondamentaux de l'enseignement de la physique, vous ne trouverez pratiquement jamais de défense de l'atomisme. Pour une raison assez simple, c'est qu'Aristote est l'un des plus grands pourfendeurs de l'atomisme dans l'Antiquité et qu'il fait autorité, comme on l'a rappelé sans cesse aujourd'hui, et qu'il était difficile, je pense, aux Arciens de défendre cet atomisme. Et beaucoup étaient sincèrement convaincus par les arguments d'Aristote, on l'a vu aussi aujourd'hui. En revanche, les théologiens, souvent eux-mêmes formés à la faculté des arts, par ailleurs, avait une liberté plus grande, malgré tout, d'invention et de liberté par rapport au texte d'Aristote. On a des cas célèbres où on a même des critiques féroces d'Aristote. Pierre de Jean Olivier, par exemple, qui s'en prend à Aristote comme vraiment le représentant parfait de l'argument d'autorité qu'il faut absolument rejeter, etc. Ou Nicolas d'Autrécourt, qui est un des atomistes sur lesquels je travaille, qui écrit un traité entier pour montrer que les arguments d'Aristote sont faux. Et lui était maître en Sorbonne, théologien. Donc, contrairement à ce qu'on a vu avec Nicolas Velparot, avec ce cadre de l'aristotélisme, moi je parle de théologien qui tente au contraire de s'en affranchir. Alors, ce que je viens d'énoncer rapidement n'est guère nouveau, en fin de compte, puisque le grand historien des sciences Pierre Duhem avait déjà soulevé ces quelques points en essayant de montrer qu'il y avait de l'invention, disons, scientifique dans les textes théologiques et toute une tradition, finalement, de l'histoire des sciences médiévales continue dans ce sens. Donc, moi, la question que j'aimerais me poser ici, c'est pas seulement donc, l'histoire des sciences médiévales, mais essayer de prendre aussi un regard un peu plus ouvert, un peu plus large sur le temps long, sur l'histoire de l'atomisme, puisque bon, ça existe dans l'Antiquité, ça existe dans la science moderne, je vais essayer de vous montrer que ça existe aussi au Moyen-Âge. Comment peut-on distinguer ces périodes, disons, de l'histoire de l'atomisme? Et j'aimerais proposer comme grille de lecture, disons, une distinction assez simple, au fond, entre l'argumentation elle-même, les arguments utilisés, et les finalités poursuivies par les auteurs qui défendent ces grandes thèses, en l'occurrence un système atomique, expliquer le monde à partir de l'existence des atomes. Pourquoi j'insiste sur ce point? C'est que dans quelques études récentes, notamment Jean-Luc Solaire, par exemple, qui a écrit un article récemment, montre que les arguments sur lesquels je travaille se retrouvent au XVIIe siècle à l'identique. Mais évidemment, dans des projets tout à fait différents. Donc moi, ce que j'aimerais esquisser aujourd'hui, c'est vraiment la spécificité de cet atomisme médiéval. Et ce qui explique, selon moi, pourquoi il a échappé pendant très longtemps aux historiens des sciences. La première raison, c'est comme je vous l'ai dit, on trouve ces défenses de l'atomisme dans des textes théologiques, mais des fois sur le mouvement des anges, sur la latitude de la charité. Il fallait les trouver dans la masse de manuscrits, etc. Et c'est petit à petit, en fait, qu'on a été mis sur la piste les uns et les autres, et que maintenant on arrive à avoir un corpus à peu près cohérent de textes qui défendent l'existence des atomes. Ce n'était pas évident au premier abord. En distinguant l'argumentation d'un côté et les finalités de l'autre, ça permet de donner sens, à mon avis, à ce corpus de théologique, finalement, qui défend l'atome. C'est-à-dire que les arguments sont bien les mêmes que ceux qu'on trouve dans l'Antiquité et même à la science moderne, à l'identique. Mais à mon avis, on peut donner sens à cette sorte d'école parallèle, non aristotélicienne, si on tient compte de ce contexte théologique dans lequel se déploie cet atomisme. Alors, permettez-moi encore quelques remarques préliminaires, quelques réflexions qui sont à l'arrière-plan de mon exposé, histoire que vous voyez à peu près où je me situe. Je vous ai dit, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'histoire de la philosophie, puisque je suis philosophe de formation et des sciences, plus largement sur le temps long. Et donc, comme je l'ai déjà rappelé, pendant très longtemps, on a considéré que l'atomisme, cette idée d'atome, était née dans l'Antiquité, sous la plume d'Épicure, mais déjà de Démocrite, avait disparu ou été oublié pendant le long Moyen-Âge et était réapparu à la Renaissance, précisément avec la redécouverte de ces textes grecs et latins, le De Natura Rerum de Lucrèce, notamment. Et il est vrai que les premières traductions latines d'Épicure, notamment de la lettre à Hérodote, qui décrit sa physique atomiste, datent du XVe siècle, 1433 pour être précis, par Ambrogio Traversari, et que le manuscrit du De Natura Rerum, vous le savez, puisque c'est à la mode en ce moment peut-être, vous avez lu ce best-seller de Stephen Greenblatt, Quattrocento, qui a eu le prix Pulitzer, le National Book Award, qui raconte cette redécouverte de Lucrèce au XVe siècle, redécouverte qu'il faut, à mon avis, relativiser. À mon avis, presque tout est faux dans ce livre, mais ce n'est pas l'occasion de le dire aujourd'hui. Puis, de toute façon, ce n'est pas le seul à dire ça. Vous trouvez ça dans les ouvrages les plus sérieux, comme le Cambridge Companion to Epicureanism, par exemple, vraiment qui fait autorité dans la célèbre collection de Cambridge. Pourquoi je dis redécouverte relative, c'est que, en effet, un humaniste, Poggio Bracciolini, en 1417, revient en Italie avec un manuscrit de Lucrèce, un manuscrit carolingien, dont on sait qu'il en existe plusieurs copies, il datait du 9e, 10e siècle, et dont on trouve un certain nombre de citations émaillées un peu partout au Moyen-Âge. Et par ailleurs, par de très nombreuses sources indirectes, on connaît bien ce que dit Lucrèce, le contenu du poème. De même pour Épicure, on a une connaissance indirecte d'Épicure assez forte, notamment par les pères de l'Église. Pas seulement de l'atomisme dont je vais parler, hein, de l'ensemble de la philosophie, y compris du rejet de la religion et de la superstition qui est présente dans la nature des choses de Lucrèce. Alors pourquoi Évidemment, ce que je vais vous montrer, c'est qu'au XIVe siècle, donc avant cette redécouverte, on a déjà des atomistes. Donc cette histoire selon laquelle la science moderne n'était possible qu'avec la redécouverte des textes grecs, à mon avis, il faut mettre ça en doute. Et pour autant, ça n'enlève pas tous les paradoxes de cette histoire que je viens de dégager à gros traits. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, dans Lucrèce, ce n'est pas seulement l'atomisme, mais c'est aussi cette critique de la superstition, du dogme, etc., qui fait que la science moderne a pu se libérer d'une certaine manière. Mais quand on regarde les arguments pour défendre l'atomisme au XVIe, au XVIIe siècle, ils ressemblent beaucoup plus aux arguments de métextes théologiques, qui pourtant n'ont pas vocation, comme je vais le montrer, à être des textes de science pure, disons, que des textes de Lucrèce. Donc c'est une histoire très compliquée, je ne suis qu'au début d'ailleurs de la reconstitution de toute cette histoire, mais voilà, pour que vous ayez un peu le contexte général de ce qui m'intéresse dans cette histoire de l'atomisme, c'est que les arguments dont je vais vous parler se retrouvent vraiment jusqu'à Galilée, on retrouve des arguments à l'identique chez Leibniz, et que pour les arguments atomistes en tant que tels dont je vais vous parler, on les retrouve vraiment à l'identique chez des jésuites au XVIIe siècle, comme Rodrigo Arriaga, par exemple. Donc il y a vraiment une tradition très très longue et continue. Mais je pense que c'est l'usage de ces arguments qui change, en fait, petit à petit. Et donc ce que j'aimerais essayer de défendre, c'est une vision de l'histoire des sciences qui ne s'en tient pas à l'histoire des arguments. Puisque là, rien ne distingue quasiment les arguments du XIVe des arguments du XVIIe siècle. En revanche, il faut élargir au maximum, à mon avis, le contexte. Alors, pour entrer dans le vif du sujet maintenant, pour essayer d'évaluer justement le caractère scientifique de cet atomisme ou non, et ses prétentions à expliquer la nature ou non, il y a un premier point qui mérite d'être soulevé, c'est la nature mathématique ou non de ces débats sur l'atomisme au XIVe siècle. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Dans le petit exemplier que je vous ai distribué, qui commence par une figure qui n'est pas de moi, vous voyez, c'est écrit en anglais, c'est John Murdoch, un des grands spécialistes de l'atomisme médiéval qui l'avait faite. C'est juste pour que vous ayez une idée du nombre de personnes qui débattent au XIVe siècle de cette question. Vous voyez, ce n'est pas un ou deux auteurs, il y a une somme d'auteurs qui discutent cela, et vous pourrez voir que l'écrasante majorité, en fait, en regardant même la totalité, finalement, sont des théologiens. Je n'ai pas indiqué les textes, les prétextes, même plutôt pour discuter de l'existence d'atomes, mais c'est l'éternité du monde, est-ce que le monde est éternel ou pas, est-ce qu'un ange peut se mouvoir, ça paraît très, très bizarre, mais un ange est indivisible, en fait, comme un atome, en quelque sorte, il doit bien se mouvoir dans la théologie chrétienne, or la physique d'Aristote dit qu'un indivisible ne peut pas se mouvoir. Et en fait, la question des anges est très vite oubliée, c'est vraiment le prétexte, on ne parle plus du tout des anges. On parle de l'indivisible et de la possibilité pour lui de se mouvoir. Et pour l'éternité du monde, évidemment, c'est dans le cadre de la création. Est-ce que le monde est éternel ou a été créé ? Donc, grande question théologique. Mais au fond, la discussion elle-même n'est faite que d'arguments sur l'infini. Quel genre d'infini on est prêt à accepter ? Est-ce que ça nous engage vers l'acceptation de l'éternité du monde ou non ? Alors, malgré donc, cette grande diversité d'auteurs et de prétextes utilisés pour traiter la question, tout ce débat repose sur une matrice d'arguments diffusée par Aristote, notamment, et que les auteurs médiévaux vont développer et augmenter, mais aussi sur des arguments mathématiques qui ne sont pas directement issus d'Aristote, mais proviennent plutôt d'auteurs arabes, qui ont été traduits progressivement en latin. Et le nœud du problème concerne l'infini. Est-ce que l'infini, celui que les mathématiques peuvent penser, est réalisable, ça peut exister réellement dans l'être? Alors pourquoi le problème se pose dans le système aristotélicien, ou plutôt dans sa cosmologie? C'est qu'Aristote conçoit le cosmos comme un univers fermé et fini. Alors comment l'infini peut-il exister dans un univers fini? Autre problème pour Aristote, il refuse pour d'autres raisons l'explication des atomistes justement de son temps. La matière n'est pas faite d'atomes. Pour lui, on ne peut pas expliquer les mouvements, on ne peut pas expliquer la génération, la corruption, l'altération dont on a parlé ce matin, si on est atomiste. Alors s'il n'y a pas d'atomes, c'est que la matière est divisible à l'infini. S'il n'y a pas d'indivisible, tout est divisible et redivisible, etc. à l'infini. Donc il faut tout de même accepter au moins un sens de l'infini dans cet univers fini. Pour le dire autrement, selon Aristote, il n'y a pas de grandeur infiniment grande, mais il existe de l'infiniment petit, c'est-à-dire qu'on peut toujours diviser une quantité finie à l'infini. En revanche, le cosmos est fermé, dans l'autre sens. Ce n'est pas symétrique. Alors une distinction qu'il faut tout de même garder à l'esprit, c'est une distinction entre les grandeurs continues et les grandeurs discrètes. Qu'est-ce à dire? Les grandeurs continues sont celles dont parle la géométrie, notamment, là aussi la physique, celle des corps matériels, et c'est ça que veut montrer Aristote, la continuité, ce qui permet d'expliquer la régularité, notamment de la physique. Et les grandeurs discrètes sont plutôt les nombres dont parle l'arithmétique, et on a cette distinction assez fréquente chez Aristote. Pourquoi je mentionne ça? C'est que dans le cas des grandeurs discrètes, des nombres, la question de l'infini est inverse en quelque sorte, par rapport aux grandeurs continues. Il n'existe pas d'infiniment petit pour Aristote. Et dans les quantités discrètes, on arrive à l'unité, 1, et par contre, par addition ou multiplication, toutes les opérations mathématiques peuvent aller à l'infini, et donc là, il y a de l'infiniment grand. En revanche, dans les quantités continues, on l'aura compris, c'est l'inverse. On peut diviser à l'infini, vers le bas, mais on va arriver à des limites pour les quantités continues, puisque l'univers est fini. Donc voilà quelques précisions pour comprendre le cœur du débat. Donc le débat va être, qu'est-ce que le continu? Les grandeurs discrètes vont être mises de côté, sont les grandeurs continues. Qu'est-ce que le continu? Est-il divisible ou non à l'infini? Alors évidemment, on le voit posé comme ça, géométrie, arithmétique, la question paraît essentiellement une question de mathématiques. Et John Murdoch, que j'ai déjà mentionné, ce grand historien des sciences, est persuadé qu'en effet, le nerf de la guerre à l'époque, c'est cette question mathématique du continu, et en cela, il n'a pas totalement tort. Mais à mon avis, on n'a pas encore cerné ce qu'était l'atomisme médiéval si on s'en tient à cette considération mathématique. Parce qu'une fois qu'on a dit que les théologiens voulaient critiquer Aristote, ces atomistes, et débattre de thèses mathématiques pour montrer qu'il y a des atomes, on n'a pas. Mais pourquoi voulaient-ils faire ça? Alors qu'ils avaient un système aristotélicien qui explique globalement les phénomènes, et la plupart des gens à l'époque s'accordaient avec Aristote malgré tout. Donc on n'a pas encore compris leur intention, si vous voulez. Par ailleurs, John Murdoch dit en fait négativement, en niant Aristote, il réhabilite Démocrite. Mais quel intérêt aurait eu des théologiens à réhabiliter Démocrite? C'est un penseur qui n'est pas seulement atomiste, mais matérialiste, etc. C'est-à-dire, il y a quand même un engagement. Enfin, les théologiens, en faisant cette opération de négation d'Aristote pour réhabiliter l'atomisme, prennent des risques. Le risque de réhabiliter Épicure, Démocrite, etc. Donc, à quel prix sont-ils prêts à faire cette opération? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et à mon avis, John Murdoch, en s'arrêtant aux aspects mathématiques, ne va pas jusqu'au bout de l'affaire. Il s'était gonflé à l'époque d'aller jusque-là dans la critique d'Aristote, cette autorité, comme on l'a vu, si forte dans les universités. Alors en fait, à mon avis, la vision que défend John Murdoch est guidée notamment par les textes du mathématicien qui a été mentionné ce matin, Thomas Bradwardine, que vous avez dans les deux premiers textes de l'exemplier. Il avait fait sa thèse, en effet, sur le De continuo, un traité sur le continu de Bradwardine, qui est un traité, en effet, qui traite de la question du continu d'un point de vue mathématique. Je vous lis ce petit texte, le premier texte. « Nul ne peut, en effet, espérer avoir le bonheur de triompher dans la bataille de la physique sans user du conseil de la mathématique et sans être renforcé par son secours. Car c'est elle qui est la révélatrice de toute vérité pure, qui fait connaître tout secret caché et qui contient la clé de tout écrit subtil. » Que celui qui osera faire de la physique en la négligeant sache donc qu'il ne passera jamais la porte de la sagesse. C'est un texte traduit par Sabine Romvaux d'ailleurs, qui est assez clair, et on a l'impression de lire du Galilée. Pour faire de la physique, il faut faire des mathématiques, et sans les mathématiques, on n'entre pas dans la sagesse, on n'entre pas dans la vérité. Et la vérité va être dévoilée, pure, par l'outil mathématique. Et alors c'est vrai que John Murdoch part de ce texte, ce texte qui critique les atomistes justement dont je vais vous parler, et on voit bien que le nerf de la guerre, c'est ça, c'est l'usage des mathématiques. Alors c'est pas totalement faux, mais justement ce qu'il faut révéler, c'est que les théologiens non seulement sont prêts à réhabiliter l'atome, mais refusent les prétentions des mathématiques et de la géométrie à être l'outil pertinent pour traiter la question. C'est là où j'arrive petit à petit à cette idée qu'il y a un atomiste presque non scientifique, du coup il y a même qui a une attitude de rejet vis-à-vis de la mathématique, qui est assez fort. L'autre point, c'est qu'on n'a pas une réhabilitation de Démocrite par cette opération de négation d'Aristote. Pourquoi ? C'est que l'atomisme médiéval est protéiforme. Et Bradwardine lui-même en était conscient, c'est le deuxième texte de votre exemplier, où Bradwardine distingue au moins 5 écoles, 5 manières de défendre l'atomisme. Alors je ne lis pas le texte, je vous laisse le lire. Moi, il y a une de ces écoles qui va m'intéresser aujourd'hui, parce que je ne peux pas tout traiter, parce que c'est la plus radicale. C'est au milieu du texte, vous voyez. C'est-à-dire, d'autres disent qu'il y a des indivisibles. Ils se répartissent en deux tendances. Démocrite qui dit qu'en fait, le continu est composé de corps indivisibles, et l'autre école qui dit qu'il est composé de points. Et ceux qui disent qu'il y a des points se divisent en deux tendances. Puisque d'un côté, on a Pythagore, le père de cette école, Platon et le contemporain Gautier Chaton, affirme qu'il est composé d'indivisibles en nombre fini. Alors, c'est cette école qui va m'intéresser, parce que là, c'est celle qui nie le plus, non seulement Aristote, mais tous les arguments mathématiques de l'époque. Et je pense qu'en prenant le cas le plus radical, ça permet de dévoiler un petit peu finalement ce qui est au cœur de ces débats de l'époque. Et vous voyez que la généalogie proposée est déjà étrange. Pythagore, Platon, atomiste. C'est pas évident du tout. Donc voilà. C'est ce que je vais essayer de vous montrer rapidement maintenant. Alors je vais commencer par présenter, si vous voulez bien, quelques arguments, quelques-uns des arguments mathématiques qu'on oppose généralement à l'atomisme. Pour la plupart, ils viennent essentiellement de la métaphysique d'Al-Ghazali, Al-Ghazel, qui a été traduite en latin par Gérard de Crémone, si mes souvenirs sont bons, mais je ne l'ai pas noté, je ne suis pas sûr de moi. Ce sont des arguments qui ont tous à peu près la même forme, d'une certaine manière, qu'on appelle des arguments par projection. Alors, je n'ai pas donné de figure et je n'ai pas de tableau pour vous expliquer. Je vais essayer de le vous expliquer par oral, mais en fait, c'est assez simple. Le premier cas on a été mentionné déjà tout à l'heure, c'est celui de l'incommensurabilité des côtés d'un carré avec la diagonale. Mais au lieu de le dire comme ça, on peut le représenter même graphiquement, c'est-à-dire qu'on trace, vous avez un carré, voilà, sans tableau, avec la diagonale, et vous prenez un des côtés et vous tracez toutes les perpendiculaires qui passent par les points qui sont censés composer ce côté. Parce que l'atomiste dit, ce segment est fait de points. Prenez toutes les perpendiculaires qui passent par ces points. Si le nombre est fini, on peut tracer le nombre des perpendiculaires. Ces perpendiculaires croiseront la diagonale en autant de points. Donc on devrait en tirer la conséquence que la diagonale et le côté ont la même mesure. Et donc il n'y a plus l'incommensurabilité entre le côté et la diagonale. Et là on est contre la définition même du carré et de sa diagonale. Donc c'est faux. Voilà le genre d'argument mathématique qu'on utilise. Autre argument qui n'est pas directement mathématique, mais qui utilise quand même une notion géométrique aussi, c'est la question du nombre des atomes dans un segment. Vous prenez le même côté du carré, et Bradwardine et d'autres demandent aux atomistes, vous dites qu'il y a un nombre fini d'atomes. Il est pair ou impair ? Ça paraît, mais évidemment, il faut pouvoir le dire. Et ils disent, mais alors comment vous allez faire une bisection ? Enfin, si vous voulez couper le segment en deux, si le nombre est impair, admettons votre segment à 9 points. La droite qui passe au milieu, elle passe au cinquième point, mais elle passe sur le point. Et s'il n'y en a que 8, elle passe entre les deux, pour que ça soit. Ou alors on ne peut jamais couper un segment en deux. Mais évidemment, en géométrie, on doit pouvoir admettre la possibilité de couper n'importe quelle quantité finie en deux. La plupart des arguments l'utilisent. Donc l'atomisme est faux. En tout cas, la version finitiste, qui dit qu'il y a un nombre fini de points. Donc voilà le genre d'argument. Que répondent les atomistes finitistes, ceux qui disent que le nombre des atomes est fini? Eh bien, en fait, ce qu'ils vont reprocher à ces arguments, mais oui, vos arguments valent pour les réalités idéales des mathématiques, aucun doute. Quand on imagine le carré, quand on définit le carré, la diagonale, c'est incommensurable, c'est irrationnel, la diagonale, c'est le côté fois racine de 2, etc. Mais nous, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la table, de combien d'atomes est-elle composée, le corps, le monde dans son ensemble. Et là, évidemment, la géométrie, selon eux, ne s'applique pas, en tout cas pas parfaitement. Et ce qu'ils disent, c'est les lignes que nous traçons même sur un tableau, Walter Chatton dit elles sont tortuosées, donc tortueuses, et il dit et les atomes qui la composent, c'est-à-dire les points, sont comme des petits pois. C'est un langage assez imagé, mais c'est-à-dire qu'il faut les imaginer comme des choses matérielles. Et dans la réalité matérielle, évidemment, on n'a jamais l'application parfaite de la géométrie ou des mathématiques. Donc ils reprochent, ils disent d'accord pour les mathématiques, dans votre monde idéal, platonicien justement, des réalités idéales, ça marche. Pour nous, ce qui nous intéresse, le concret, ça ne marche pas. Donc, vous voyez un rejet donc, de l'outil géométrique pour un retour justement au concret, en quelque sorte. Alors évidemment, les arguments mathématiques ne sont pas les seuls à être utilisés contre l'atomisme. Aristote en avait imaginé un certain nombre dans la physique. Et le plus puissant, celui qui est le plus discuté en quelque sorte, est l'argument qu'on appelle l'argument du contact, que je vous ai donné, je ne vais pas le lire non plus, le texte 3 dans votre exemplier. Quel est l'argument? Si le continu, une grandeur continue, un segment, une figure, même une superficie, un corps, était composé d'indivisibles, il faut expliquer, si on veut que ce corps soit continu, c'est-à-dire sans vide, comment ces indivisibles peuvent se toucher, être en contact, et ne pas laisser de vide entre eux. Or, nous dit Aristote, comment deux choses peuvent-elles se toucher? Entrer en contact, par un argument qu'on appelle par dichotomie, c'est-à-dire soit une chose touche une autre selon le tout, soit selon la partie. C'est l'un ou l'autre. Mais un atome n'a pas de partie, par définition. Donc il touche un autre atome selon le tout. Mais une chose qui touche une autre dans sa totalité, c'est une superposition. Donc vous ajoutez un atome à un atome, ils se superposent, donc ils ne font pas une grandeur supérieure à un atome. Vous en mettez 100, ça fera toujours 1. Ils se superposent. Si vous les séparez, ils ne peuvent pas se toucher. Donc il y a du vide entre les deux. Mais s'il y a du vide entre deux atomes, la quantité n'est pas continue. Elle est discrète. Donc il faut admettre qu'entre deux atomes, il y en a un troisième, mais entre ces deux-là, il y en a un autre, etc., à l'infini. Et en fait, on est obligé d'accepter l'infini, infiniment petit, selon Aristote. C'est la seule solution de sortir de cette impasse. Il n'y a pas de continuité sans l'infiniment petit, sans l'infini, la division infinie. Alors, argument logique, pour le coup, non mathématique, mais assez fort quand même. Ça paraît assez insolvable. Pourtant, c'est les atomistes dont je vais parler, Henri de Harclay, Walter Chatton, Crathorne, Wycliffe, là, les quatre premiers, qui sont, au moins pour trois d'entre eux, définitistes, défendre l'existence d'un nombre fini, vont dire, mais en fait, si vous pouvez regarder le texte 4 de Henri de Harclay, ça marche, mais il faut pouvoir quand même distinguer les atomes selon le lieu. On va voir que cette notion de situs, de lieu, est très importante dans leur argument. Je lis Henri de Harclay, et donc je réponds que ce n'est pas en raison de l'indivisibilité qu'un indivisible ajouté ainsi à un autre indivisible ne forme pas une quantité plus grande du point de vue de l'étendue, mais parce qu'il s'ajoute à lui selon la même position, et non selon une position distincte. En revanche, si on appliquait immédiatement à l'indivisible selon une position distincte, il peut former une quantité plus grande selon la position. C'est-à-dire, en effet, ces superpositions, s'ils se mettent tous sur le même lieu, mais on peut imaginer un atome à côté de l'autre. L'argument d'Aristote dit, oui, mais là, il y aura du vide entre les deux. Oui, mais imaginons qu'il n'y ait pas de vide. Imaginons quand même qu'ils puissent être l'un à côté de l'autre. On se dit, mais c'est un drôle d'argument quand même, cet argument. Et c'est là où je veux en venir, c'est que, ce sera la conclusion de mon exposé, mais je l'anticipe déjà, ce que proposent ces atomistes, c'est une imagination concurrente de l'imagination mathématique. C'est-à-dire que les mathématiciens revendiquent eux-mêmes leur argumentation sur une certaine forme d'imagination. Il faut imaginer des choses. Et les théologiens, ces théologiens vont dire, mais nous vous demandons d'imaginer autrement subspecie deitatis, je ne sais pas comment elle n'utilise pas cette formule, mais c'est-à-dire, mettez-vous du point de vue de Dieu, on va voir, il y a des textes assez éloquents, Dieu peut tout à fait créer un atome et en mettre un autre à côté, sans qu'il y ait de vide entre les deux, et voilà. Si on se place du point de vue de l'origine du monde, en quelque sorte, alors on peut donner sens à ça et critiquer Aristote, et critiquer les mathématiciens, et parler du monde réel, de sa création matérielle, etc. Et donc refonder une physique atomiste. C'est ça que je vais essayer de développer un petit peu avec quelques exemples maintenant. Alors quel est l'intérêt pour eux? Il est multiple, mais une des forces de cette idée, selon Crathorn, par exemple, texte 5, que je ne lis pas, je n'ai pas le temps, mais c'est qu'on a une définition à la fois de la continuité et de la discrétion. C'est-à-dire qu'on pourra dire, ah oui, bah, deux atomes sont l'un à côté de l'autre, s'il n'y a pas d'intermédiaire, continuité, s'il y a un intermédiaire, puisque Crathorn accepte l'existence du vide, contrairement à la plupart des auteurs de la faculté des arts de l'époque, les théologiens, ça ne leur pose pas de problème d'accepter le vide, et au moins par la toute-puissance divine, et puis pour un certain temps, alors là, on a quelque chose de discret. Il dit, mais c'est beaucoup plus fort qu'Aristote, qui nous explique que la continuité. Nous, on vous explique quand est-ce qu'il y a continuité, quand est-ce qu'il y a discrétion, et du coup, on peut imaginer des hypothèses scientifiques, même, comme on en parlait tout à l'heure, à propos du vide, et on peut imaginer toutes sortes de situations, on est beaucoup plus libre. Donc, voilà un des intérêts de cette théorie, par exemple. Alors, autre intérêt de passer par cette notion de situs, de lieu, d'imaginer les atomes dans des lieux différents. On verra que John Wycliffe, par exemple, imagine le monde comme une totalité de points situés dans un repère géométrique, paradoxalement d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il dit, imaginons quelqu'un qui pourrait englober le monde comme ça avec ses bras, ses pieds sont au pôle sud, sa tête au pôle nord, et mes bras sont l'équateur, il y a le centre du monde, à partir de ce repère, je peux situer chaque atome du monde, indépendamment. Imaginons que Dieu annihile toute la matière, sauf un atome. Mais on garde quand même cette structure. Et ben on a la position d'un atome. On enlève cet atome, on en met un autre. Et en fait, ils sont juste à côté, sans vide, etc. Et on reconstruit comme ça, par cette expérience de pensée, une totalité faite d'atomes dont la seule possibilité de les distinguer par la pensée, c'est leur situs, leur lieu dans un repère qui est le repère du monde. En fait. Voilà le genre d'expérience de pensée, hein, on en parlait déjà tout à l'heure, et je pense qu'il y en a beaucoup plus de ce genre à la faculté de théologie, bizarrement, qu'à la faculté des arts. Il y a une sorte de liberté assez forte. Donc, quel autre intérêt donc, de penser cette idée du situs punctualis, comme ils disent, le lieu du point, c'est que ça leur permet non seulement de refuser les arguments mathématiques et ceux d'Aristote, mais de formuler, à leur tour, des arguments contre l'infini d'Aristote. Deux arguments que je développe. Les atomistes nous disent, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'objet concret, cette table. Est-ce qu'on peut la diviser à l'infini ou pas? Diviser en parties. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la relation du tout avec les parties. Et combien il y a de parties? Est-ce qu'il y en a une infinité? Premier argument, ces parties, il faut pouvoir les diviser, vraiment. C'est ça qui nous intéresse. Si c'est juste la division en puissance, c'est-à-dire qu'on peut concevoir mathématiquement une division infinie, ça ne nous intéresse pas. Est-ce qu'on peut couper jusqu'à l'infini? Si on pouvait le faire, alors on aurait une somme infinie de parties existant réellement en acte. Mais une somme infinie de choses en acte, c'est un infini en acte. Or, c'est précisément ce qu'Aristote lui-même refuse. Le cosmos est fini, il y a de l'infini en puissance, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir imaginer, penser la division à l'infini vers le bas, mais l'infini en acte vers le haut, c'est un infini qui n'existe pas. Mais eux disent, mais si vraiment il y avait une infinité de parties réelles dans la table, elle devrait être infinie, puisqu'elle serait elle-même une somme infinie de parties réelles. C'est donc que le nombre des parties est fini. Et autre argument qui utilise le lieu, la table, vous la coupez en deux, chaque partie occupe la moitié du lieu de la totale de la table, le quart du lieu de la table, etc. Donc chaque partie que vous divisez occupe un lieu, par définition. Si cette division allait à l'infini, vous auriez une infinité de lieux. Mais la somme infinie de lieux est un lieu infini, selon l'argument. Or, la table occupe un lieu fini. Donc, contradiction. Donc, si le lieu est bien fini, et on peut tous le voir, c'est que le nombre des parties qu'on peut situer, et seule celle-ci nous intéresse, une partie qu'on ne peut pas penser dans un situs, ça n'a presque pas de sens, même intellectuellement, alors c'est que le nombre est fini. Donc, il faut accepter l'existence d'atomes, et d'un nombre fini d'atomes. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui encore, c'est en fait, ils utilisent les paradoxes de Zénon d'Élée. Et ce paradoxe a un nom particulier, c'est ce qu'on appelle le paradoxe métrique de l'extension. Sa formulation traditionnelle, que je peux vous donner si vous voulez, c'est si une quantité continue finie est divisible à l'infini, soit les parties sont des points sans extension, mais alors on ne peut pas expliquer comment ils forment une quantité continue, puisque la somme d'entités de degré 0, s'ils n'ont pas d'extension, fera 0. C'est-à-dire que si les points n'ont pas d'extension, vous pouvez en ajouter une infinité fois 0, c'est 0. Soit ils ont une extension minimale, et l'infinité même d'une extension minimale, c'est un infini. Et donc il y a un paradoxe, on ne peut pas expliquer. Donc c'est sur ce paradoxe que vont jouer les atomistes. C'est-à-dire aux arguments logiques d'Aristote, ils ressortent les vieux paradoxes de Zénon d'Élée en disant finalement, Aristote, tu n'y as pas vraiment répondu. En utilisant notamment le lieu, on peut renforcer les paradoxes de Zénon et critiquer la physique aristotélicienne. Alors évidemment, ça pose un problème majeur, c'est il faut donner une certaine extension à ces parties minimales. Ces atomes, ils continuent à les appeler des points, des choses non quantifiées, et là, il y a une petite contradiction des atomistes sur lesquels je travaille, puisqu'ils appellent ça des points, mais en fin de compte, il faut que ce soit des corpuscules, d'une certaine manière, quelque chose qui a une petite grandeur au moins minimale. Et là, il faut avouer qu'ils ne sont pas toujours très clairs. Je vois que le temps passe. J'avais prévu de vous parler de deux autres points, c'est-à-dire de vous montrer qu'il y a vraiment une physique atomiste et pas seulement une mathématique. C'est que ces textes cherchent à expliquer le mouvement en termes atomistes. C'est-à-dire qu'un mouvement local, par exemple, c'est le mouvement d'une chose en un certain nombre d'instants, d'atomes de temps, sur un certain nombre d'atomes d'espace, c'est-à-dire de lieux ponctuels. Et donc, on peut mesurer le mouvement en termes atomistes. Et ça, il y a des textes très clairs sur le point. Mais ça vaut aussi pour les autres mouvements d'Aristote, la raréfaction, la condensation. Une chose puisse, comme une éponge, puisse dilater ou au contraire se réfracter. Eux vont dire, mais ça marche très bien avec les atomes, en fin de compte. Il y a ceux qui acceptent le vide, là, c'est encore plus facile pour eux. C'est-à-dire qu'une chose se resserre, il y a de moins en moins de vide et les parties atomiques se resserrent. Et quant à ceux qui n'acceptent pas le vide, ça paraît un peu plus compliqué, mais là, il y a deux solutions. Une qui dit qu'il y a des échanges de particules avec l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a une particule de cette chose de matière qui va dans l'air, ou dans l'eau, ou dans le milieu environnant, il y a une déperdition de matière, ou au contraire, il y a un gain par une forme de... Alors là, ils n'arrivent pas à expliquer le changement de nature des particules. Mais bon. Soit, et alors là, c'est un peu plus bizarre, c'est de dire, non, il y a superposition de points, de points de matière qui hop, occupent tout d'un coup le même situs, qui se superposent et donc sont plus distinguables. Et donc la somme apparaît plus petite, ou au contraire, ils se divisent à nouveau, comme une division cellulaire un petit peu. Et donc la chose peut grandir. Donc vous voyez, c'est quand même une volonté de critiquer Aristote, mais pas seulement pour réhabiliter Démocrite ou pour un projet vague. Non, il y a une vraie, véritable volonté de fonder une physique atomiste à l'époque. L'autre point, mais je n'ai pas le temps sur lequel je voulais m'arrêter un peu, c'est cette théorie du lieu dont je parle depuis le début. Elle va avec une théorie du vide. Certains acceptent l'existence du vide. Nicolas Dautrécourt dit que les atomes se meuvent dans du vide. Il y a du vide interstitiel entre les atomes. D'autres disent que ça arrive de temps en temps, mais la nature a hors du vide. Donc la nature va combler ce vide, mais le vide peut intervenir dans les processus naturels. Et d'autres, comme Jean Wycliffe, n'acceptent pas le vide, mais disent, mais le lieu dont je parle, il faut le concevoir comme un espace vide. Il est de fait plein de matière, mais il occupe un espace et le lieu, c'est cet espace. Et là encore, ce n'est pas du tout la définition aristotélicienne du lieu, mais ça demanderait une conférence à part entière. Donc, j'en viens finalement au point qui m'intéressait au début. Ce que je viens de dire, bon, John Murdoch l'avait partiellement déjà repéré, mais pourquoi au fond, aller si loin, de manière si radicale contre Aristote, pourquoi réhabiliter l'atome dans ce milieu de théologiens, aller jusque dans le détail de la physique, expliquer le mouvement, etc. Alors, je n'ai pas de solution définitive et claire à ce sujet, mais dans ce que je vous ai proposé, il y a déjà quelques éléments, à mon avis, qui transparaissent. D'abord, on a vu que l'atomisme défendu n'est pas forcément le même que celui de Démocrite, d'Épicure ou de Lucrèce. Déjà, il prend plusieurs formes, il n'a rien à voir, et à mon avis, il faut tenir ça, garder ça en, en tête. Ensuite, le mode d'argumentation, on l'a vu, est essentiellement logique, fondé sur les paradoxes. Et dans le cadre du finitisme, c'est vraiment une obsession, c'est-à-dire la réalité matérielle, les corps, le monde qui nous environnant. À mon avis, une des motivations des théologiens, c'est véritablement de garantir la finitude du monde créé, pour le dire très rapidement. C'est-à-dire de réserver l'infini à Dieu et à Dieu seul, et ne pas se laisser imaginer, si vous voulez, que l'infini, même l'infini en puissance d'Aristote, puisse être commensurable avec l'infinité divine, en quelque sorte. En acceptant l'existence d'atomes, on garantit une incommensurabilité totale entre la créature et son créateur. Seul Dieu est infini. Et je pense que c'est une des motivations, sans doute pas la seule, de ces théologiens, au moins de certains d'entre eux, au moins des finitistes. Je pense que c'est assez clair. Vous avez des textes que je vous ai donnés. C'est le dernier point qui me semble intéressant, c'est sur la méthode, finalement, sur cette notion d'imagination. C'est-à-dire, c'est là où transparaît, à mon avis, l'intention théologique derrière. C'est-à-dire qu'il nous demande d'imaginer le monde physique autrement que l'imagination que nous propose Aristote, en quelque sorte. Alors, imagination qui va assez loin. Je vous en donne un exemple, c'est le texte 11. Je passe un peu vite sur les textes, je suis désolé, mais de John Wycliffe, qui, à mon avis, est un des plus clairs dans ce sens-là. C'est infinitiste. Pour lui, le monde est totalement fini. C'est une grosse somme d'atomes. Et pour défendre cette vision du monde, il s'appuie essentiellement sur Platon, donc ce qui correspond en effet à ce que disait Brad Wardine quelques décennies auparavant des finitistes, qui sont des platoniciens. C'est-à-dire sur le Timée de Platon, qui décrit précisément la création du monde. On a un démiurge qui crée le monde à partir d'exemplaires mathématiques et qui crée d'abord des formes atomiques, en quelque sorte. Sauf que chez Platon, ce sont des formes, des triangles élémentaires, des petits carrés, etc. Eux reprennent l'idée générale de Platon, mais remplacent finalement ces figures géométriques élémentaires par les points, en quelque sorte, par les atomes. Je lis le texte 11 de Wycliffe. De la même manière, comme je le crois, aucun théologien ne nierait que Dieu, par sa puissance absolue, puisse créer une substance ponctuelle, une substance qui tiendrait dans un point, soit par condensation, soit en créant une nouvelle substance, en la créant de novo, soit troisièmement en faisant qu'un esprit occupe un lieu ponctuel et en détruisant toute autre créature à l'exception de cet esprit conservé immobile. Alors, expérience de pensée, hein. Dieu met un esprit, hop, il est dans un point, je ne sais pas pourquoi on a besoin de l'esprit d'ailleurs, mais... et on supprime tout le reste du monde. Et voilà, on a l'existence d'un point seul, isolé, comme ça. Il est ainsi évident que la ponctualité, punctalitas, je sais pas, ou le point, qui correspond pour une substance au fait d'être ponctuel, est un acte positif dans cette substance. C'est-à-dire positif, c'est que c'est une réalité. Le point peut donc exister. Cela ne fait aucun doute non plus que si Dieu peut créer une chose ponctuelle, il peut en juxtaposer plusieurs. Cela ne fait aucun doute non plus qu'il existe des lieux correspondant à ces choses juxtaposées, puisque le lieu est le sujet de ce qui est situé. Et après cela, il apparaît que Dieu peut produire une quantité à partir de ces choses non quantifiées. Dieu peut créer un point, il peut en créer un deuxième, le mettre à côté, sans intermédiaire, et ainsi de suite. Et on a l'exposition contraire d'Aristote, c'est-à-dire comment deux points non quantifiés, mis les uns à côté des autres, selon des lieux différents, on arrive à une quantité plus grande qu'au départ. Dieu crée une substance ponctuelle pour chaque lieu ponctuel du monde, et il détruit ensuite toute substance continue en conservant les substances ponctuelles immobiles. C'est-à-dire, là, le monde est en mouvement, il y a des choses créées. On imagine, Dieu nous annihile tous. C'est quand même des expériences radicales, hein, de penser pour un théologien. Bon, d'imaginer que Dieu nous supprime tous d'un coup et ne conserve que les atomes déliés, en quelque sorte. On imagine un monde où il n'y a que les atomes. Il dit, bah, en faisant ça, on peut imaginer vraiment tous les atomes. Il se trouve que là, ils sont liés entre eux, dans les corps, et on ne voit plus cette singularité de l'atome. Mais on peut l'imaginer. Il apparaît qu'après cela, Dieu agit sur un lieu aussi grand qu'au début, et par conséquent, il y a un lieu de cette grandeur, ou à tout le moins, il arrive qu'un lieu de cette grandeur soit fait de ces choses ponctuelles. Donc une fois posé cet accident pour tout continu, il faut poser un sujet au continu, et que celui-ci est composé de choses ponctuelles, parce que celles-ci sont destinées à être ses principes intrinsèques. Je ne doute pas non plus, une fois cela admis pour possible, que tous les philosophes du monde n'eussent pas d'évidence infaillible pour conclure qu'il n'en est pas ainsi de fait. Donc là, vraiment, c'est... Si on se place du point de vue de, ce que, de la toute-puissance divine, si vous voulez, normalement, selon lui, tous les philosophes du monde devraient avoir une évidence infaillible de sa thèse. Un peu prétentieux, mais... je rappelle au passage que Wycliffe a été condamné au Concile de Constance pour son atomisme. C'est-à-dire que dans l'acte du Concile, il y a trois articles qui condamnent son atomisme pour une toute autre raison. C'est-à-dire parce que, évidemment, c'est un des arguments utilisés par Wycliffe lui-même, d'ailleurs, pour rejeter la transsubstantiation. Et c'est évidemment pour ça qu'il est condamné. Donc voilà, vous voyez, cette imagination assez forte, c'est-à-dire cette subalternation, finalement, de cette physique atomiste à la toute-puissance divine et en fait à des principes théologiques. Alors il reste encore beaucoup de recherches à faire, à mon avis, pour comprendre les motivations plus ponctuelles, le mouvement des anges, comme ça apparaît dans beaucoup de contextes différents. Mais à mon avis, on ne peut pas comprendre cette résurgence, disons, de l'atomisme au XIVe siècle en dehors de ce contexte théologique. Et de ces questions, notamment l'éternité du monde, hein, c'est une question qui agitait beaucoup les théologiens et qui est un des prétextes les plus souvent utilisés pour en parler. Alors, je vois que normalement c'est l'heure, donc 5 minutes. De toute façon, là j'ai fini. Dernier texte que je voudrais vous citer, toujours sur cette imagination peut-être, qui me semble assez intéressant, c'est le texte 12 de Wycliffe toujours, qui est assez clair sur la méthode qu'il faut employer. Il ne faut pas traiter des parties ponctuelles, c'est-à-dire des atomes, hein, dans le cadre de la philosophie naturelle, dans laquelle on démontre la cause par l'effet, par une démonstration par le fait, une démonstration quia, dont le principe est l'expérience ou les sens. Car le point n'est pas sensible ou imaginable. Il ne revient donc pas au géomètre d'en traiter spécialement. Celui-ci ne traite directement que de choses imaginables, pas plus qu'au philosophe naturel. Mais il faut conserver cela aux métaphysiciens, et à l'arithméticien. Alors c'est un texte intéressant, c'est-à-dire que cette question des atomes ne doit pas être traitée finalement par le philosophe naturel. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à démontrer la cause par l'effet. Or, cet atome n'est quasiment pas accessible par ce genre de démonstration. C'est-à-dire que, comme si une cause n'était jamais un atome, par exemple. Ça, c'est forcément une somme, etc. La méthode même de la philosophie naturelle n'est pas adéquate pour poser l'existence des atomes. Et c'est pour ça qu'Aristote, d'ailleurs, dans la physique, arrive à l'idée qu'il n'y a pas d'atomes. Et en fait, ils comprennent bien. Oui, si on suit les principes d'Aristote, on est contre l'atomisme. Si on prend la géométrie, les autres arguments que je vous ai cités, la commensurabilité de la diagonale avec le côté, c'est pareil, on arrivera forcément à l'infini. Et, d'accord, mais c'est que ce n'est pas la bonne méthode. Parce qu'on parle de ces atomes qui ne sont pas l'objet d'expérience, d'une part, qui ne sont pas sensibles. Alors là, il joue avec le feu en disant qu'ils ne sont pas imaginables, puisqu'il nous demande lui-même d'imaginer finalement ces atomes, mais c'est un sens d'imagination précis, c'est le secundum imaginationem des mathématiciens, qui eux-mêmes disent que leurs arguments sont selon l'imagination. Il dit, mais cette imagination des mathématiciens, étant finalement quand même fondée sur des principes infinitistes, arrive à des conclusions infinitistes. Donc qui doit s'occuper de l'atome ? Le métaphysicien. C'est une histoire de métaphysique. C'est quelque chose qui n'est pas, qui est au-delà du sensible. Et ça, c'est quand même, à mon avis, une nouveauté du XIVe siècle. Et à l'arithméticien. Alors pourquoi l'arithméticien ? On peut se demander pourquoi la réintroduction de l'arithmétique. Parce que l'arithmétique, comme je l'ai dit au début, s'occupe des quantités discrètes essentiellement, mais indépendamment de ça, part de l'unité, n'accepte pas la division à l'infini. Et en revanche, peut concevoir l'infini par addition ou par succession. Et ça, ces théologiens l'acceptent, par exemple pour le temps. Ils disent le monde a été créé au début, Dieu a créé ce monde total, dans sa perfection totale, dit Wycliffe, mais il peut durer éternellement. C'est-à-dire que l'éternité à part et post, après la création, par succession, ne nous pose pas de problème. Et ça, c'est un concept qui ne pose pas de problème à l'arithmétique. Unité, adjonction d'unité à l'infini, un instant plus un instant plus un instant, et ça va se dérouler à l'infini. En revanche, voilà, il y a un début. Il y a un acte de création au début. Et en fait, on a des textes, je ne vous les ai pas cités parce que ça serait vraiment trop long. Ce que je vous résume ici, je l'ai présenté dans un séminaire à Lausanne il y a un an, sur 4 jours, 5 heures par jour, ouais. À des doctorants de Lausanne. Donc là, c'est vraiment un résumé très, très court. Donc pourquoi l'arithmétique ? C'est que Wycliffe nous dit, dans toutes les catégories ontologiques que pose Aristote, qu'on peut conserver la substance, l'accident, on en a parlé aujourd'hui. Même dans ces catégories, il faut poser une unité à chaque fois. Et c'est ça le principe, c'est pour ça qu'il est platonicien et pythagoricien, comme d'ailleurs le dit aussi Pradwardhin. C'est-à-dire que c'est le nombre qui compte, et il faut toujours un retour à l'unité dans tout. Et c'est ça qui va guider finalement le projet métaphysique de Wycliffe. Et l'atome est évidemment la manière idéale de répondre à cette exigence d'unité. Voilà, je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup. Rassurez-vous, on n'a pas été écrasé, mais franchement, merci d'avoir fait cet exercice de vulgarisation scientifique pour nous expliquer ce que c'est que l'atome au Moyen-Âge. C'était vraiment passionnant, comme toutes les interventions d'ailleurs. Donc, y a-t-il une question ou plusieurs à la fin de notre journée ?
Oui, une question de chronologie. Est-ce que tu as, j'imagine que tu en as, des éléments d'explication pour expliquer que ces réflexions autour de l'atomisme en méthodologien surgissent, si j'ai bien compris, début 14e ?
Oui, essentiellement. En fait, je suis en train de remettre un peu en cause cette chronologie malgré tout. C'est-à-dire que j'ai trouvé d'autres occurrences encore plus étranges que celles que j'ai citées, le mouvement des anges, etc. J'ai trouvé une discussion assez tôt dans le XIIIe siècle chez Richard Fischacre, donc un théologien anglais aussi, qui pose une question très bizarre au départ, c'est-à-dire sur le péché originel. Adam a péché et nous sommes tous héritiers de son péché. Une des solutions qu'on a appelée le traducianisme physique consiste à dire que nous avons tous quelque chose d'Adam en nous, qui explique que le péché originel s'est transmis par génération. Mais y a-t-il assez de parties en Adam pour que nous en ayons tous un petit bout ? C'est-à-dire, est-ce qu'Adam était fait d'une infinité de parties ou pas ? Qui permet d'expliquer que dans l'infinité des hommes de la descendance d'Adam, nous ayons tous des atomes d'Adam en nous, qui pourrait expliquer la corruption de toute l'espèce. Et évidemment, c'est l'occasion idéale de se demander s'il y a des atomes ou pas. Et ça, c'est assez tôt, finalement, au XIIIe siècle. Donc, je pense qu'on n'a pas fini d'explorer les lieux les plus bizarres de la théologie médiévale, qui sont autant de prétextes pour prendre position sur ce sujet. Et par ailleurs, bon, y a déjà quand même la question du continu est déjà traitée chez à peu près tout le monde au XIIIe siècle. Donc, chez Albert Le Grand, chez Thomas d'Aquin, mais qui sont des aristotéliciens convaincus. On vous a peut-être remarqué que parmi les auteurs que j'ai cités, beaucoup sont franciscains, et les rares dominicains sont très bizarres. Enfin, le Crathorne, que personne ne connaît, c'est un dominicain, mais complètement fou. Il critique Thomas d'Aquin à longueur de page. Il s'en fiche complètement de l'ordre dominicain, vraisemblablement. Enfin, il ne respecte pas du tout ce que font les autres à Paris ou en Italie. Mais sinon, ce sont essentiellement des franciscains ou des séculiers. Et je pense que c'est une piste intéressante d'examiner ce contexte franciscain. De part et d'autre, d'ailleurs. Vous voyez, les critiques, les aristotéliciens critiques de l'atomisme, ceux qui s'engagent le plus dans le débat, sont aussi souvent des franciscains. Alors, est-ce qu'on trouvera un élément de chronologie là-dedans ? Je ne sais pas. Après, une des pistes, évidemment, après 1277, parce que la question de l'éternité du monde fait partie des condamnations de l'évêque de Tempier en 1277, donc ça a réactivé aussi ce débat-là. J'avoue que, voilà, pour l'instant, je n'ai pas plus d'idées précises sur ce point. Désolé.
La manière dont les débats sont posés, en tout cas tels que vous les exposez, ça me fait penser finalement à la manière dont d'autres débats se tiennent, même de manière antérieure, et je pense entre autres au débat quant à savoir si on peut expliquer le monde par la raison, en tout cas les raisons divines, par la raison elle-même ou pas. Et donc finalement c'est ce débat-là qui revient. Et dans la manière dont au XIIe, au XIIIe siècle, ces débats-là sont exposés, c'est toujours saint Augustin auquel on revient. Et je me demandais si finalement, s'il y avait des auctoritates autres qu'antiques, et parmi les pères, donc saint Augustin et même peut-être d'autres plus tardifs, si ça s'inscrivait dans une généalogie qui ne parlait pas forcément d'atomisme, mais de la manière d'aborder la question de comment est-ce qu'on comprend le monde.
Alors, tout à fait. Enfin, je ne sais pas si on peut généraliser à tous les auteurs que j'ai évoqués ici. Pour une raison simple, c'est que je vous l'ai dit, les prétextes sont souvent assez bizarres, mouvement des anges, ce qui fait que ça rend très difficile quand même de donner un sens global à ces questions qui peuvent paraître ponctuelles. En revanche, chez au moins deux auteurs, on a un vrai système atomiste, et là c'est un peu plus clair, il y a des autorités, c'est Wycliffe d'un côté, et le moins connu, Marcus de Trevisano, qui est totalement inconnu, mais qui lui rédige un De Macrocosmo et De Microcosmo, enfin c'est vraiment c'est un traité de cosmologie, qui est doublé d'un hexaméron, et qui est d'un commentaire même de la Genèse. Et dans les deux cas, je vous ai dit, il y a un usage très fort du Timée de Platon, et l'autre source qui est la plus utilisée, c'est Augustin, précisément, qui est très utilisé, et c'est encore un mystère pour moi, puisque Augustin est totalement opposé aux atomistes, même si, dans les confessions, il dit à un moment que si Épicure n'avait pas défendu la mortalité de l'âme, il en aurait fait son meilleur ami. Mais malgré cela, à mon avis, il est totalement opposé à l'idée d'atome. Mais je crois que c'est plutôt le modèle de la création. C'est-à-dire que ce modèle néo-platonicien, pour le dire rapidement, d'un monde qui est d'abord créé comme une chora, comme disaient les platoniciens, c'est-à-dire une sorte d'ensemble maximal de matière qui va pouvoir après recevoir les formes. Et ce modèle de départ convient assez bien à cette idée, aux expériences de pensée qu'on a vues, c'est-à-dire de Dieu qui crée une sorte de totalité décomposable en termes d'atomes. Après, pourquoi aussi ces questions de la Genèse, puis même de d'autres autorités scripturaires, c'est qu'on on fait appel, alors je ne sais plus d'où c'est tiré dans la Bible, mais cette idée qu'en gros Dieu peut compter les choses. Je ne sais plus quelle est la citation exacte, mais c'est un argument qui revient très souvent. Et les finitistes s'en servent pour dire mais ce qui nous paraît infini, c'est en fait un indénombrable pour nous. Mais Dieu, lui, pourrait nous dire le nombre exact des atomes. Et il y a une citation biblique qui dit, en gros, Dieu peut compter. Alors, c'est pas du tout les atomes, hein, je crois que c'est les imbéciles dans la citation biblique. Mais, et donc, c'est émaillé comme ça de citations scripturaires. Et souvent, l'autorité pour la lecture, notamment de la Genèse, c'est les commentaires d'Augustin qui sont le plus cités. Mais c'est peut-être simplement la pratique, c'est généralement dans tous les commentaires à la Genèse, l'auteur le plus cité. Donc, je ne sais pas si c'est significatif ou pas. Mais sinon, pour les autres auteurs de la patristique, pas tant sur l'atomisme, mais pour les atomistes antiques, qui sont très utilisés comme source, globalement pour la connaissance d'Épicure notamment. Un autre dossier sur lequel j'ai travaillé sont les vies d'Épicure, qui sont rédigées au XIIIe et XIVe siècle, à partir de compilations de textes patristiques, de Sénèque, de Cicéron, d'Augustin, de Lactance, de Jérôme, enfin, et qui, à base de compilations, donnent des vies d'Épicure très étonnantes, laudatives. C'est vraiment, Épicure est un grand sage. Et s'il n'avait pas fait quelques erreurs théologiques, mais ce n'est pas de sa faute, après tout, c'est un païen, il n'avait pas eu la révélation, c'est quand même un des plus grands sages qui existait. Donc il y a un usage, en effet, des pères, mais sur l'atomisme précisément, beaucoup moins.
Je me demandais, c'est peut-être une question idiote, je me lance, s'il y avait une théorie particulière des atomistes sur la résurrection.
Eh ben alors, j'en sais rien pour l'instant, mais en tout cas, alors, je pense que c'est un des lieux où il faut aller voir, de même que le corps d'Adam et ses générations, évidemment, toutes les questions de la résurrection, il y a peut-être quelque chose. En tout cas, le seul élément que je peux donner, qui n'est pas directement théologique, mais c'est que dans les exercices de logique, qui était fait à l'époque, les sophismata, où on donnait des exercices de logique en donnant un problème apparemment insoluble et il fallait redoubler d'imagination, d'inventivité pour trouver une solution logique. Et dans un de ces sophismes anonymes, l'auteur, c'est un problème justement sur la référence, comment faire référence à des choses passées, futures. Et lui, il dit, mais il y a une possibilité de continuité de référence si les atomes restent là. Quelqu'un est mort, mais ses atomes restent, et on le reconstitue. Dans ce cas-là, on peut imaginer une référence à quelque chose qui n'existe pas, et une référence au futur. C'est un cas d'école, hein, c'est pas un débat sur la résurrection, mais cette hypothèse d'une persistance des atomes qui pourrait, par miracle, se reconstituer en la même chose, et qui pourrait permettre, dans le langage, de penser la référence à travers le temps, est envisagée dans un sophisme. Mais alors là, c'est une littérature que je ne peux pas aborder. Il y a des milliers et des milliers de sophismes anonymes. Je ne sais pas si c'est quelque chose de récurrent ou pas.
par rapport au texte de Wycliffe, là, le texte 11 que tu nous as lu tout à l'heure, et là, l'intervention de la toute-puissance divine dans, dans ce raisonnement, tu sais que j'ai tendance à penser que ce raisonnement, cet appel à la toute-puissance divine est un appel logique, hein, dans le sens que bon, Dieu peut faire tout ce qui n'est pas contradictoire. Donc, je me demande quelle est la référence à la théologie là-dedans. Enfin, moi, je verrais ça plutôt dans un contexte logique, hein, c'est-à-dire, je vais préciser. Est-ce que Wycliffe pense réellement que Dieu, le Dieu des théologiens, enfin le Dieu catholique, enfin son Dieu à lui, a fait ça?
En fait, il y a deux aspects. C'est-à-dire que, globalement, tu as raison, le principe de la toute-puissance divine est utilisé de manière générale comme un principe logique. C'est-à-dire que Dieu peut tout faire dans les limites du principe de non-contradiction. Et là, pour lui, quand il s'agit d'expérience de pensée, l'usage est bien celui que tu décris. Mais par ailleurs, c'est en confrontant ces textes-là, d'ailleurs c'est un texte de logique, tu auras remarqué, c'est dans un traité de logique. Mais quand on compare avec d'autres textes de Wycliffe, qu'il a pu écrire sur justement ce qu'il appelle la logique de l'écriture sainte, où il montre bien que pour lui la logique est une logique de l'écriture. Il faut trouver la logique propre pour l'exégèse. Déjà, on va un peu plus loin dans ce raisonnement. Et quand il parle de la création, ce qu'il décrit ressemble pas exactement à cette expérience de pensée, mais quand même à cette création de départ d'un tout matériel, disons, à la manière des platoniciens, faite d'atomes. Je crois que j'ai cité un autre texte. Bon, c'est encore de la logique, mais je ne sais pas si je l'ai cité. Voilà, le texte 6. Il nous dit, il faut imaginer une essence corporelle produite au départ, créée au départ, par Dieu. Là, comment imaginer le monde? Il faut imaginer une essence corporelle produite, créée au départ, ou au commencement, qui est composée d'indivisibles, qui occupe tout le lieu possible, et qui n'est pas corruptible selon une seule de ses parties, si ce n'est par division ou séparation d'une partie par rapport aux autres. Mais puisqu'il importe que cette essence totale ait chacune de ses parties en continuité, il est évident que cette essence est absolument incorruptible. Et là, ça doit être dans un traité de logique. On voit bien que dans cet excursus-là, non, il nous décrit vraiment la constitution du monde, au départ, comment il faut se l'imaginer. Évidemment, c'est sous la raison de l'imagination. C'est-à-dire que, mais il faut que cette imagination soit cohérente avec l'écriture. C'est ce qu'il défend partout ailleurs. Ce qui rend, pour revenir à ce que j'ai dit au début sur l'histoire longue de l'atomisme, ce truc très paradoxal. C'est-à-dire que tout le monde dit « Ah, mais l'atomisme est la renaissance de l'atomisme au XVe siècle qui permet l'essor de la science moderne. » Mais si ce que je dis est vrai, par exemple, que ces débats-là ont influencé encore plus, finalement, les textes de Galilée des vrais scientifiques et pas seulement des humanistes, il y a quelque chose de paradoxal, puisqu'on voit bien que la plupart des textes ne sont pas du tout scientifiques. C'est ça que je trouve étrange comme vision de l'histoire. Comment on doit le présenter? C'est un problème que j'ai toujours, en fait.
Non, mais si je peux réagir par rapport à ça, je pense que là, on a trop tendance à associer science et mathématisation. Or, ça ne va pas de soi.
Non, bien sûr.
Et je veux dire, c'est assez réducteur. Enfin, voilà. Moi, je trouve très fort et cette idée que défend ces atomistes que les mathématiques n'ont rien à nous dire du réel. Je trouve que c'est...
Oui, mais c'est malgré tout l'opposé de ce que dira Galilée, de ce qu'on imagine, de point de vue de l'histoire des sciences, comme la science moderne. Le monde s'écrit en langage mathématique.
Oui. Non, bah, j'ai une conclusion, c'est difficile, pas possible de conclure. Écoutez, enfin, en tout cas, nous, on était très très contents d'être ici. On espère vous avoir fait part des derniers développements sur le Moyen-Âge. Je crois que ce qui quand même ressort de cette journée, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues concernant le Moyen-Âge qui sont remises en cause, hein, par les derniers travaux, et que c'est en tout cas une période fascinante à plein des aspects. Enfin, moi, plus je l'étudie, plus je trouve ça riche, hein, vraiment très, très, très riche. Mais qu'il faut justement, c'est ça qui est très intéressant, aller chercher dans des endroits, dans des chemins, dans des textes dans lesquels on n'irait pas spontanément. Donc il ne faut pas y aller non plus avec nos concepts, nos façons de voir, nos modes de pensée, parce que sinon, effectivement, on ne voit rien. Donc voilà. En tout cas, je me fais le porte-parole de mes collègues pour vous remercier de nouveau de l'invitation. Vous dire qu'on était vraiment très très contents de l'accueil de vous tous, du public. Puis voilà, en espérant que pas vous avoir trop déçus.